Bien, bonjour à toutes et à tous. On va tout d'abord commencer avant d'entamer la table ronde. On va l'entamer très rapidement, mais on a un collègue de l'EMF qui s'occupe des badges. Alors, il va nous dévoiler le secret des badges et ce qu'on peut en faire, surtout. Donc, Stéphane, si tu veux venir.
Bonjour à tous. Donc, je vous prends 10 minutes de votre temps, histoire de vous expliquer quelque chose qu'on essaye de mettre en place actuellement à l'Espace Mendès France, qui s'appelle les Open Badges. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ce sont ce qu'on pourrait traduire par des badges numériques. Alors, j'ai souvent l'habitude de prendre un exemple concret. Je ne sais pas s'il est réellement concret, mais vous allez peut-être mieux comprendre ce que c'est. Si vous connaissez les scouts, les éclaireurs de France, vous savez tous qu'ils ont sur leur chemise un certain nombre de petits badges, de petits écussons, des insignes au final, qui permet tout simplement de reconnaître leur savoir-faire. Eh bien, c'est exactement ce même principe qu'on est en train de mettre en place à l'Espace Mendès France. Le fait de pouvoir faire reconnaître les savoirs, formels ou non formels, les compétences, les acquis, tout simplement par ces badges. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un badge? Grosso modo, ça reste une image qu'on va effectivement envoyer par le biais d'un mail. D'accord? Donc, c'est tout simplement pour accréditer le fait que eh bien, vous ayez des compétences dans un certain nombre de domaines. On a tous un profil de poste, mais on peut avoir des compétences en plus de ce profil de poste-là. Donc c'est vraiment ces acquis-là qu'on essaye de faire reconnaître à travers ces insignes. Donc c'est tout nouveau. Quand je dis c'est tout nouveau, on essaie déjà depuis l'instant, depuis un bout de temps. Donc j'ai laissé quand même des plaquettes qui vous permettront peut-être de mieux appréhender ce que c'est qu'un badge, parce que ça peut paraître un petit peu complexe au départ. J'ai laissé également des affiches. Grosso modo, l'idée à travers cette table ronde, c'est que tous ceux qui participent à cette table ronde pourraient demander en fait l'attribution d'un badge. Si vous regardez ici les affiches, eh bien vous avez un QR code qui se trouve dessus. Si vous êtes muni d'une tablette, d'un smartphone, avec une application qui permet de lire les QR codes, vous accéderez directement au formulaire qui vous permettra de demander ce badge. D'accord ? En tant que participant, en tant qu'acteur de cette table ronde, eh bien on est tous à même de pouvoir demander un badge. Donc, par défaut, que ce soit les QR codes, si vous êtes muni des applications, ou alors directement par le biais d'une adresse, ob.emf.fr, qui vous mènera directement au formulaire qui vous permettra de demander votre badge. Voilà. La petite chose, le fait est qu'on peut tous demander une image, mais qu'est-ce qu'on va en faire par la suite ? D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle le backpack, le sac à dos qui permettra de stocker les badges. D'accord ? C'est tout simplement 5 minutes de votre temps. C'est-à-dire que si vous allez sur Open Badge Passport, qui est une plateforme dédiée, eh bien vous pourrez tout simplement stocker les badges qui vont vous être attribués. Voilà. J'ai fait court. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Il y a des petits supports. Alors, EMF se fait vecteur en fait de pouvoir tout simplement vous accompagner aussi parce que vous pourriez avoir dans l'idée de pouvoir distribuer des badges. Vous êtes peut-être éducateur, vous êtes peut-être animateur, vous êtes peut-être enseignant. Et même si j'ai dit tout à l'heure que les savoirs, les compétences ne sont pas forcément dans un cadre scolaire, vous pourriez de la même manière quand même eh bien, attribuer des badges aux élèves. Par le biais de la participation, c'est une question de les motiver aussi. C'est souvent un principe qui a été utilisé chez IBM, donc plutôt dans un espace professionnel, et qui permet de dire, bah voilà, j'ai un certain nombre de nos ouvriers, de nos salariés qui ont des compétences, et comment je les situe par rapport à d'autres. Donc ça peut être aussi ça, les badges. Oui, il ne faut pas avoir peur. La première lecture, ça peut un petit peu effrayer comme ça. Il faut passer au-delà de ça. Dites-vous que ce sont des insignes qui reconnaissent tout simplement les compétences ou les acquis, et que au-delà de ça, eh bien, on peut stocker ces badges sur des plateformes dédiées. Donc là, nous, en l'occurrence, c'est Open Badge Passport. Voilà. Donc 5 minutes de votre temps pour créer un compte, c'est gratuit, sur Open Badge Passport, qui vous permettra, à ceux qui vont en faire la demande, eh bien, de stocker déjà les premiers badges qu'on va distribuer. Donc c'est, quand je dis que ce n'est pas nouveau, c'est-à-dire que l'université de Caen, déjà, travaille là-dessus. Vous avez peut-être entendu parler d'un projet qui s'appelle Badgeons la Normandie. Ils ont badgé la Normandie. Alors c'est un petit camembert, et puis voilà. Il y a des participants, il y a des acteurs qui ont effectivement reçu des badges. Au-delà de ça, ça va plus loin que ce contexte-là, puisque à Montréal, c'est extrêmement répandu, mais aux États-Unis aussi, par exemple, la ville de New York, eh bien, c'est une des villes qui est la plus mise en avant par rapport à ces badges. D'accord ? Elle produit, elle délivre des vidéos, des formations, et puis toutes ces vidéos, tous ces apprentissages qui sont à disposition eh bien, sont reconnus par des badges. Donc on pourrait effectivement on pourrait se mettre dans l'idée que nous aussi à l'Espace Mendès France, on pourrait être un vecteur de tout ça, qu'on pourrait effectivement délivrer des badges à ceux qui participent, à ceux qui viennent aussi visiter l'espace Mondes France et puis qui ont un intérêt dans les sciences ou dans l'informatique, enfin dans le numérique en tout cas. Et à partir de là, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Je la fais brève, hein ? Ouais, question ? Alors, qui voit ces badges ? Une fois que vous les avez stockés sur les plateformes dédiées, vous avez, vous, la possibilité de les partager ou pas, hein, après c'est vous qui décidez, via vos réseaux perso ou pro, tout simplement. Un badge, ça peut être affiché sur Twitter, ça peut être affiché sur Facebook, ça peut être utilisé sur un CV, ça peut être utilisé dans un portfolio, ça peut être utilisé dans un parcours professionnel quand on est en train de construire effectivement une reconversion ou des choses comme ça. Ça peut être utilisé dans plein de choses. C'est vraiment les balbutiements aujourd'hui, mais ça va prendre de l'ampleur. J'ai tout dit ? Donc, honnêtement, prenez le temps de lire la plaquette, allez faire un petit tour sur le site ou flasher le QR code. Il y a déjà des informations qui sont présentes et sur la plaquette et sur le site directement. Et puis, si jamais vous avez envie d'avoir un retour, si vous voulez effectivement en savoir un peu plus, on pourrait aussi se dire qu'on se fait une grosse réunion et puis on parle de ça avec plusieurs acteurs. Pas que tout seul, voilà. Ok ? Je rends la parole à Jackie. Merci.
Au passage, d'ailleurs, on aura dans les tables rondes de 2019, c'est pas encore affiché, mais on en aura une sur l'auto-formation. On pourra peut-être en reparler pour justement aborder cette question. Voilà, on va commencer à entrer dans le vif du sujet. Alors, la table ronde, c'était sur l'agriculture. Alors, c'est un vaste domaine, donc on n'a pas la prétention d'une table ronde de traiter tout le sujet. Donc, c'est vraiment une première approche où on a voulu des regards très différents. Et on verra à l'issue de cette table ronde si on peut aller plus loin dans ce travail sur ce thème-là. Voilà. Donc, je vais appeler Philippe Largeau tout d'abord, qui représente la Fédération des entrepreneurs de territoire, des territoires, il nous dira. En tous les cas, cette notion d'entreprise et de territoire, ça nous intéresse évidemment, puisque on essaie à chaque fois qu'on le peut dans les tables rondes qu'on aborde, ne pas oublier le monde de l'entreprise. Voilà. Et quel que soit le thème. Donc, Philippe Largeau, bah, je vous laisse la place et la parole.
Merci. Attendez, il faut que je prenne mes lunettes. C'est là. Non.
C'était dans la barre.
Ah, dans la barre. Allez-vous la barre, voilà. C'est bon. Ok.
Voilà. Par contre, comme ça, enregistré, on vous...
D'accord. Bien écoutez, bonjour à tous. Merci de m'avoir convié un petit peu à cette table ronde. Donc je me présente, Philippe Largeau. Je suis, alors tout d'abord, j'ai un métier à la base, avant d'être élu à une fédération. Je suis entrepreneur de travaux agricoles à Diéné, donc pas très loin d'ici, sud de Poitiers, sur la route de Limoges. Donc je suis une entreprise de travaux agricoles dont l'entreprise s'appelle Philippe Largeau Rêve Environnement. Pourquoi Rêve Environnement ? Je vends pas du rêve, je vous rappelle, même s'il y a des fois on veut essayer de s'en rapprocher. Non, c'est bien une signification, ça veut dire récolte, épandage et valorisation. Donc ce sont un peu la liste des prestations que je fais sur mon entreprise. Donc on a un rôle de prestataire de service auprès du monde agricole, mais pas que. On travaille aussi pour les collectivités, entre autres, et des donneurs d'ordre divers. Mais le cœur de notre clientèle, sur un fichier à peu près client de 700 clients, c'est 95% d'agriculteurs. Donc qu'est-ce que nous faisons ? Notre métier, c'est de vendre de la prestation pour le monde agricole, c'est-à-dire d'avoir donc un homme, une machine et un savoir-faire. Et avec ça, on vend une prestation à l'agriculteur pour éventuellement apporter une solution de travail chez un agri qui n'a pas forcément les moyens technique ou matériel de faire cette prestation. Donc moi, je suis un peu ciblé sur certains pôles, entre autres sur les travaux de récolte, fourrage. Donc là, comme vous voyez ici, là, ensilage d'herbes, entre autres, hein, mais on a aussi récolte maïs et récolte d'herbes en auto-chargeuse. Donc ça, c'est des récoltes de fourrage pour les éleveurs, pour le monde animal. Et ensuite, une grosse activité en épandage, tout ce qui est épandage de matières solides donc, et amendements. Donc on épand des fientes, des composts, du fumier, fumier de bovin, mais aussi des bouts de ville. Entre autres, pendant longtemps, j'épandais les bouts de la ville de Poitiers, qui sortait de la station de la Folie, qui était traité, qui était mis en solide, et après qui était, selon un plan d'épandage, était épandu sur le sol. On pourra peut-être y revenir si vous avez des questions, mais on est souvent très, très sollicité, pas forcément de façon amicale, puisqu'on épand des matières organiques. Forcément, organique veut dire odeur. Et forcément, quelquefois, qui dérange. Mais voilà. Mais on communique beaucoup avec la société aujourd'hui par rapport à ça, parce que c'est un problème, mais je pense que on pourra peut-être y revenir. Donc voilà, l'entreprise. L'entreprise donc est composée. J'ai 6 salariés, hein, plus éventuellement des saisonniers que j'ai. Alors, j'ai 6 temps plein. Et 2 à 3 saisonniers l'été, selon le besoin et le rush de travail qu'il peut y avoir. Et nous avons aussi une activité, attendez, si je pouvais vous montrer une photo, une activité aussi de drone qui permet cet appareil, donc qui est un IB. C'est un drone à aile delta, c'est pas un drone comme vous pouvez voir avec des petites des ailettes qui volent avec une télécommande. Nous, il n'est pas télécommandé, il n'est pas auto-guidé. On le programme via un ordinateur où on lui enregistre la parcelle qu'il doit survoler pour capter une image de chlorophylle pour permettre de déterminer, c'est pour faire de la de la préconisation azotée pour les parcelles de blé et colza. Donc ce vol, on le lance sur une parcelle qui est pré-programmée informatiquement. On le lance tel que mon opérateur vient de le faire là, on le lance et il s'en va à son point zéro tout seul par rapport à ce qu'on lui a commandé là, et il va faire la parcelle. Il va capter des photos sur toute la parcelle. Et ensuite, quand il a fini, il revient dans notre main. Et donc, on en retire les photos et toutes les données sont traitées et envoyées. Après, on reçoit une cartographie. L'agriculteur reçoit une cartographie qui lui permet d'avoir un visuel sur la modulation à apporter, sur la quantité d'azote à apporter. Alors, quelquefois, ça lui permet de faire des économies par rapport à son objectif qu'il ait fait. Mais à des fois, il n'y a pas forcément une économie de quantité, mais une répartition beaucoup plus, une répartition sur la parcelle qui est répartie en fonction de la capacité de la plante et du sol à pouvoir optimiser cette quantité d'azote. Donc voilà un peu les activités que je fais sur mon entreprise. Donc ensuite, en parallèle, je suis donc élu à une fédération qui rassemble un peu tout le type d'entreprise comme la mienne, qui est la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires, comme vous le voyez ici. Et donc la nouvelle dénomination entrepreneur des territoires a changé il y a maintenant, je ne sais plus, 7-8 ans. J'étais pas encore au national, mais oui, je crois que c'est à peu près 8-10 ans. Puisqu'avant, c'était un mouvement qui regroupait l'ensemble des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers. Puisque tout en faisant le même métier, on a des activités un peu diverses. Moi, je suis spécialisé dans les travaux agricoles. Certains sont spécialisés dans les travaux forestiers. Donc, c'est le débardage, c'est l'abattage, c'est la civiculture, X travaux en lien avec la forêt. Et ensuite, il y a les travaux ruraux pour les accotements, entre autres les broyages d'accotements routiers et entretien des haies. Donc voilà un petit peu cette fédération donc nationale qui regroupe, en représente 25 000 entreprises pour 90 000 à 100 000 salariés contrats salariés. Je ne parle pas d'équivalent temps plein. Regroupant tous les types d'activités. Alors sachant que dans l'agricole, je pourrais même vous parler, puisqu'on est dans une région concernée, l'agricole, nous avons aussi la partie viticole, où nous avons des entreprises de prestataires viticoles qui font des prestations, même titre que moi, mais sur les vignes. Hein, il y a des châteaux qui font faire leurs prestations de taille, de vendange, d'entretien des vignes par des entreprises de travaux viticoles. Donc voilà, donc notre fédération derrière représente environ entre 3 et 4 000 adhérents répartis sur tout le territoire avec plutôt une forte concentration sur tout le Grand Ouest quand même. Il y a une forte activité de la Normandie, Bretagne, Pays de Loire et nous maintenant Nouvelle-Aquitaine. Mais n'empêche que j'oublie pas mes autres collègues où il y a aussi de l'Est, centre, et puis dans le Sud-Est. Donc voilà. Bon, pourquoi cette fédération ? Ben, un peu comme toute fédération d'organisation professionnelle, on est là pour promouvoir, nous, notre métier, pour se faire connaître, parce que dans le grand public, quand vous prenez votre voiture, que vous passez sur une route, au moment des récoltes, vous voyez une moissonneuse, vous voyez un tracteur, vous dites, tiens, il y a un paysan qui est en train de travailler. C'est pas forcément un paysan. Ça peut être aussi un entrepreneur qui est là pour travailler chez l'agriculteur. Donc souvent on est un peu fondu dans la. Alors c'est un constat, hein, c'est pas une critique. On est fondu dans la masse agricole et donc des fois on ne sait pas trop nous identifier. Alors on essaye quand même de faire pas mal de choses, d'actions, de communiquer, de faire des actions là-dessus. Donc nous voilà, on est porteur de solutions des fois pour le monde agricole. Et donc cette fédération est déclinée en plusieurs réseaux. On a un réseau régional, donc ici région Nouvelle-Aquitaine, dont j'en suis le président. J'étais auparavant président de l'ex-Poitou-Charentes. Et donc depuis la réforme territoriale, on a été obligé de faire un peu comme tous les copains, de se remettre aussi en identité Nouvelle-Aquitaine. Je ne vais pas développer là-dessus parce que c'est un peu compliqué quand même cette grande région, hein, on ne va pas se le cacher. Même si on fait le même métier, quand on met, alors je parle pour moi, mais c'est vrai dans toutes les organisations, je pense, professionnelles, quand on met quelqu'un d'un même métier qui est du Pays Basque, avec, c'est-à-dire en limite sud Nouvelle-Aquitaine, et qu'on le met avec une autre personne de même métier, entre autres entrepreneur ou un agriculteur, bref, ou un maçon ou n'importe quoi, qui est du Bry-sur-Ay, même si c'est le même métier, on n'a quand même pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes façons de voir les choses. Donc voilà, et petite parenthèse, mais en tant que président de Nouvelle-Aquitaine, quand on a les 12 départements autour de la table, c'est pas évident d'arriver à gérer tout le monde, surtout pour les mettre sur la même égalité. Voilà, bref, petite parenthèse. Donc on a un échelon régional, mais on a aussi un échelon départemental, où chaque département, ici, on a une identité EDT 86, entrepreneur du territoire 86, qui était entre autres présent à la ferme Saint-Vite, hein, qui avait un stand. Donc voilà, pour toujours pareil, pour communiquer et puis essayer d'avancer dans certains débats où on est souvent en lien forcément avec les ministères aussi au niveau national pour défendre notre cause, pour essayer de valoriser notre métier, pour essayer de trouver des solutions à des problématiques. Alors quelquefois, nous sommes associés bien sûr avec les organisations agricoles pour certains pôles. Après, il y a des pôles qui nous incombent, qui sont vraiment spécifiques à nous. Bah, on est vraiment on est seul à défendre notre problème. Mais sur certains points, que ce soit sur le social ou autre, on est souvent en marge avec l'ensemble du secteur agricole. Donc voilà pour ça. Et puis on travaille aussi, bien sûr, donc, comme je disais, avec les collectivités. Et Notre fer de lance, c'est bien sûr d'apporter une prestation, mais aussi c'est qu'on est, très proche du territoire, on est constamment sur le terrain, donc pour le bien de l'agriculteur, mais au vu du grand public. Et des fois, on se doit de communiquer énormément, on est très déficitaire en communication, je le dis fortement et j'ai pas peur de le dire, on communique pas assez, parce que souvent, eh bien, on est confronté à des heurts sur le terrain. Faut le dire, on est confronté à des heurts parce que l'épandage ça pue, parce que les produits c'est pas bon, parce que ceci, parce que cela. Mais le problème, c'est que les gens ne savent pas vraiment les choses et il faut qu'on l'explique. Alors même si on vient juste de manger, je vais quand même vous donner un exemple pour entrer dans le sujet. C'est pas le sujet, mais je veux dire pour montrer un peu à quoi on est confronté, surtout en matière organique, où c'est problématique. Parce qu'on n'est pas aussi... on va dire que les citadins et les maisons bougent, ça avance, ça se construit, ça ceci. Donc plus ça va, plus on est amené à faire nos travaux aux abords de cités, aux abords de villes, aux abords de ceci. Donc on prend énormément de précautions pour respecter tout le monde. Mais il y a quelques années, quand j'ai commencé moi-même à faire les épandages, c'est pas toujours quelque chose de très agréable, mais il faut le faire. On faisait les épandages du bout de la, je faisais les épandages du bout de la ville de Poitiers. Et c'est une anecdote que je raconte depuis 15 ans, mais Michel, tu as dû déjà l'entendre. J'étais en train d'épandre et une personne faisait sa marche. J'étais sur Savigny-les-Vesco. Je m'en rappelle toujours, c'était des bouts qui venaient de Poitiers. Et une personne marchait et je me suis fait insulter pendant 5 minutes par une personne que je respecte parce qu'elle ne connaissait pas le truc, mais que j'étais un agriculteur pour l'heure, que ça puait, que ceci, que cela, et j'ai eu droit à toute la liste. Bon, j'ai laissé faire 5 minutes. Alors, excusez-moi, je vais prendre des propos un petit peu, je ne sais pas s'il faut que c'est enregistré, mais bon, c'est pas grave, moi je suis comme ça, je vais vous le dire tel que je l'ai dit. Je lui ai dit, madame, c'est bon, vous avez fini Non, c'était un monsieur, pardon, j'ai dit, c'est bon, vous avez fini de... Oui, mais de toute façon, c'est tout comme ça, vous polluez tout, machin. J'ai dit, monsieur, vous habitez où? Il m'explique, il habitait à Savanc-Sevant. Non, Montamisé. Et donc, il était dans la cape de Poitiers. Ben, je lui ai dit, excusez-moi, monsieur, c'est votre merde que j'ai pas. Donc là, il commence à m'ouvrir les yeux et il me dit, mais qu'est-ce que vous me dites? Je dis, vous explique. Voilà, ça, ce sont les bouts de la ville de Poitiers. Et j'ai dit, on est justement en train de faire des tests. Et c'est vrai, à l'époque, on faisait des tests. On a essayé de mettre de la fraise dedans, mais ça ne marchait pas. Hein. La fraise ne ressortait pas. Et donc, j'ai dit, voilà, c'est les bouts de la ville de Poitiers et tout le monde tire la chasse d'eau. Mais personne ne se tracasse de ce qui se passe derrière. Tout le monde a le confort aujourd'hui. Du sanitaire et autres, mais derrière, il y a de la gestion, il y a du traitement. Et donc, voilà. Et j'ai dit, bah, écoutez, monsieur, je suis désolé, mais soit vous nous aidez à trouver une solution, ou soit autrement, vous mettez un bouchon, vous faites comme vous voulez. Et voilà. Alors, c'est une anecdote, mais ça en est resté là, mais c'est pour montrer le manque de communication qu'il y a, parce qu'on est tous, en lien les uns les autres. Je veux dire, tout le monde profite des conforts qu'il y a. Mais derrière, ça engendre des choses, des complications, machin. Et donc voilà, c'était un peu une anecdote. Désolé pour le manque un petit peu de tact, peut-être. Mais voilà, c'est du vécu. Et il faut le savoir parce que, eh bien, des fois, c'est compliqué. Et il est vrai, pareil pour les produits que l'on épand en fiente organique, qui sont des produits... Alors, quelquefois aussi, ce sont des composts biologiques ou fientes biologiques qui sont épandus. Alors, c'est vrai que ça a tendance à avoir une odeur, mais c'est du naturel. Alors, on est confronté où on nous dit qu'il faut arrêter le minéral, qu'il faut arrêter le chimique, qu'il faut arrêter ceci. Et quand on fait du naturel, on nous reproche que ça sent mauvais. Donc, voilà, c'est juste pour vous dire qu'on est dans un environnement un peu compliqué et que on essaye, nous, de notre côté, on est un petit peu entre le marteau et l'enclume, donc il faut faire les choses dans les règles de l'art et surtout communiquer, surtout beaucoup communiquer, surtout dans le territoire. Donc voilà, je ne sais pas si je vais peut-être arrêter là, parce que autrement, si vous me laissez le micro.
Il peut y avoir des questions, justement, pour préciser. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? concernant l'intervention de Monsieur Largeau. Oui. Et tu, alors, comme on enregistre, je vous demande simplement de donner votre nom à chaque fois.
Toussaint Dorsal. Voilà. Alors, vous avez deux questions. La première, est-ce que vous faites des traitements aériens, traitements d'épandage, produits de désherbage ou insecticides, etc.
Non.
C'est une première. Jamais.
Alors, je réponds à celle-ci d'abord. Non, le traitement aérien, d'abord, j'en fais pas parce que j'en fais pas mon activité. Mais il faut savoir que le traitement aérien aujourd'hui est interdit. Il se fait plus de traitement aérien. En produits phytosanitaires, ça n'existe plus. Les produits qui s'épandent aujourd'hui selon un cahier des charges, selon des règles bien précises. Et les traitements aériens en phyto, entre autres, ne se font plus. Il peut y avoir des traitements aériens si sont des épandages de notamment d'insectes ou quelque chose, mais de produits phyto, non, c'est interdit.
Deuxième question, merci. Quel est l'avenir un peu de l'entreprise, sachant que les fermes prennent de plus en plus d'importance? Est-ce que, alors, les petites fermes diminuent? Et c'était des clients importants pour les entreprises,
oui. Enfin
ou des moyennes fermes, oui, je veux dire, oui. Pour pas des petites. Alors, est-ce que des grosses exploitations qu'on a l'impression qui arrivent en France, est-ce que ça va pas changer un petit peu la donne pour les entreprises?
Eh bien non, parce que contrairement à ce que on pourrait croire, aujourd'hui on a la chance de faire un métier qui a beaucoup de potentiel, beaucoup d'avenir. Puisque le monde agricole aujourd'hui, mais bon, Michel en parlera mieux que moi sur son métier d'agriculteur, mais aujourd'hui le monde agricole est en pleine mutation. L'agriculture d'aujourd'hui n'est plus l'agriculture d'hier. Et donc, il y a beaucoup de choses qui changent. Entre autres, l'externalisation de certains travaux. C'est pour ça que nous, on est sollicités pour faire des travaux. Et paradoxalement, ce ne sont pas les petites exploitations qui nous font appel en premier, ce sont les, on va dire, un peu plus grosses, voire les grosses. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dans la tête déjà un raisonnement de gestion tout à fait différente. Ils ont une ouverture d'esprit que peut-être le petit exploitant qui est du matin au soir dans sa bulle, du lundi matin ou dimanche soir, n'a pas forcément d'ouverture et de vision sur l'extérieur, comme il devrait l'avoir, et tape dans le tas du matin au soir. Alors qu'à côté de ça, certaines exploitations sont dans la recherche de maîtrise des coûts de revient, des coûts de production surtout, et donc essayent de trouver le bon curseur pour essayer de pallier à son autonomie, mais aussi en faisant appel à l'externalisation des travaux. Et ça évolue. Et puis la technologie aussi. On travaille avec du matériel aujourd'hui de plus en plus pointu, qui coûte de plus en plus cher. Donc avec des outils d'aide à la décision, je vous ai parlé du drone, mais en épandage on est équipé en autoguidage GPS sur les tronçons pour pouvoir faire des lignes droites, pour faire de la modulation, pour faire, voilà, on a un niveau technologique dans l'agricole qui est très très haut, très pointu. On disait ce matin en aparté avec monsieur Deniol, bon, on n'est pas rendu à la robotisation est en pleine, on va dire en essai aujourd'hui. C'est la grande culture. La robotisation marche très bien pour l'instant dans le maraîcher. Mais en grande culture, mais ça va très vite. Hein, on arrivera sur des tracteurs autonomes bientôt. Mais voilà. Mais pour répondre à votre question, non, on est quand même relativement sollicité et on a de belles perspectives pour les professionnels, pour ceux qui sont réellement professionnels dans ce domaine. Parce que ça demande aussi des compétences, mais des droits et des devoirs. Donc respecter, comme je vous expliquais tout à l'heure, entre autres pour l'environnement, il ne faut pas faire n'importe quoi. Si on veut être reconnu, il faut savoir aussi respecter les autres.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Sinon, oui. Et la même règle du jeu.
Bonjour, Armelle Pérennes. Je reviens sur l'anecdote que vous avez racontée, qui date d'un certain nombre d'années. Oui. Est-ce que vous avez senti une évolution dans un sens ou dans l'autre depuis? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a soit d'un côté une prise de conscience et donc un peu plus de dialogue possible, ou au contraire que ça s'accentue avec le temps?
Ben, Ça s'améliore dans le giron local que l'on fait, que l'on connaît, parce que les gens nous connaissent et on a communiqué. Mais sur la grande région, sur un secteur beaucoup plus grand, ou même à l'échelon national, je dirais que c'est compliqué que ça évolue. Pourquoi c'est compliqué que ça évolue? Parce que nous, on se bat sur le terrain pour essayer d'expliquer les choses. Mais on a un ennemi qui est redoutable, c'est les médias, la presse, qui malheureusement ne font pas de l'analyse, ils font du buzz. Et on le voit, moi je vous parle des matières organiques, mais on le voit sur les phytos. Aujourd'hui, on est en train de faire un débat sur le phyto, on est en train de faire une analyse de l'application phyto d'il y a 20 ans. Alors qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de nous parler du zéro phyto, du 50% de dose. 50% de dose, et en tant que c'est entamé. Et le problème, c'est ça. C'est un constat, c'est pas une critique. Moi, quand je suis devant ma télé, que je vois un dossier, un documentaire sur un sujet que je ne connais pas, je prends pour argent comptant tout ce qu'on me dit, parce que je dis, ah bon, c'est comme ça, c'est vrai. Mais moi, j'ai vu des émissions, je citerai de Élise Lucet, une fois, elle a fait un reportage sur les phytos. J'étais fou. Et moi, je fais pas de phyto en prestation de service. Hein. J'en fais pas, mais je connais bien le dossier pour m'en occuper à Paris. J'étais fou. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et on voit que ce sont des émissions à charge. Et je trouve ça dommage. Et c'est ce qui fait, en fait, combattre la société par rapport aux professionnels, comme le bio par rapport au conventionnel. C'est pareil, sur le terrain, le bio et le conventionnel, ça s'entend très bien. Hein. Même certaines personnes font les deux. Mais dans les médias, on cherche toujours à mettre une confrontation. Pourquoi? Parce qu'il faut faire du buzz. Et ça aujourd'hui, c'est encore compliqué. Et surtout sur la partie phyto, s'il y en a qui ont des questions, je suis prêt à y répondre parce que vraiment, c'est très compliqué aujourd'hui. On est dans un état... on parle du glyphosate, on parle de tout, mais il y a beaucoup plus de monde qu'on parle qui ne connaissent rien. Et ceux qui connaissent, qui ne communiquent pas assez, malheureusement. Mais voilà.
Bien. Encore une question, puis après on passe au suivant.
C'est pas une question, c'est une. Je voudrais comprendre. Oui, je suis Claire Germont, je fais partie de Terre de Liens, et je comprends pas. Là, j'avais entendu dire que c'était une table ronde, et donc je m'attendais à voir des gens autour d'une table et qui débattent, et non pas une seule personne qui explique et qui vont succéder les uns et les autres. Je vois pas trop l'intérêt.
On verra à la fin. On va laisser s'évoluer la table ronde et puis on verra après. L'idée, c'est quand même qu'il y ait des confrontations, des points de vue différents. Ah ben, on en a une et on va en voir les suivantes ensuite. Hein. Bien. On peut pas mettre tout le monde à la table en même temps. Il faut que chacun puisse s'exprimer. Comme je vous l'ai dit, c'est un premier point sur un sujet qui est complexe, dont on n'a pas la prétention. Je pense que ce que nous cherchons à faire, c'est à faire appel à l'argument de raison. Donc voilà, il faut prendre le temps de la discussion, de l'échange, et c'est pas en une seule fois que nous pourrons traiter le sujet. Là, j'ai bien conscience de ça. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va demander à M. Defouge, donc de l'ordre des géomètres experts, de venir nous présenter son point de vue à lui.
Voilà, donc on a demandé de réfléchir un peu quelle approche on pouvait avoir de la part d'un professionnel du foncier que je suis sur cette notion de foncier rural plus que de foncier agricole. Donc mon intervention va se baser avant tout sur les perspectives qu'on peut avoir dans la gestion du foncier au regard de la problématique actuelle. Et puis, dans une perspective d'avenir, comment ça peut évoluer, quels sont les challenges qui nous attendent et quelle approche on peut avoir de cette problématique du foncier et du monde rural. Avant tout, avant de parler de créativité de territoire, moi, il y a un point, mais je ne veux pas déborder sur l'intervention de M. Lafourcade, mais il y a une constante qui est dans ma pratique professionnelle et qui est permanente. C'est quand on parle de foncier rural, qu'il soit agricole, forestier, qu'il soit ostréicole, viticole, j'en passe, c'est les meilleurs. C'est avant tout de considérer que derrière, quoi qu'on puisse en penser, il y a des hommes, il y a des hommes qui produisent, il y a des hommes qui permettent d'alimenter les marchés, circuits courts ou longs. Et s'il n'y avait pas ces hommes-là, on aurait un environnement rural qui serait considérablement dégradé. Donc, quoi qu'on puisse en dire, au niveau des pratiques, n'oublions jamais derrière cette dimension sociale du monde rural, sans qui bien on ne serait pas là, ou au moins on n'aurait pas la richesse de mettre en avant nos territoires. Alors, si j'aborde cette question plus précisément du foncier agricole, je serais amené à poser une question. Le foncier agricole, est-ce que c'est un outil ou est-ce que c'est un patrimoine? Et comment va-t-on aborder cette question-là, cette différence entre outil et patrimoine, si tant est qu'il y en ait une? L'outil foncier pour l'agriculture, c'est avant tout la base de la production agricole. Si on n'a pas de foncier, on ne peut pas produire. Et ce foncier, ben, il va se présenter d'une certaine manière et il va pouvoir être différent en fonction de la production qu'on va aborder. C'est-à-dire, est-ce qu'on est céréalier, est-ce qu'on est éleveur, est-ce qu'on est viticulteur? Chacun va trouver des atouts, on le verra un peu plus loin, des atouts et des contraintes dans son activité. Quand on parle de foncier pour l'agriculture, eh bien, on peut pas passer sous silence une certaine protection de l'exploitant. Et heureusement que dans les rapports entre les propriétaires et les exploitants, celui qui met en valeur le patrimoine, celui qui met en valeur l'activité et la production, aujourd'hui bénéficie d'une protection relativement large, même si parfois, d'un point de vue des propriétaires, et on fera le parallèle avec les propriétaires un peu plus loin, pour certains propriétaires, ça peut parfois être exorbitant, mais pour l'exploitant, ça représente une gage de sécurité et de pérennité. Ce qu'on peut dire aussi aujourd'hui dans l'évolution des différents modes de faire valoir, c'est que le nombre des agriculteurs diminue. Ça, c'est voilà, on enfonce une porte ouverte. À côté de ça, ils ne peuvent pas non plus devenir propriétaires systématiquement de toutes les terres qu'ils exploitent. Donc la part croissante des propriétaires non exploitants est quelque chose qui se vérifie. Et quand on rencontre des propriétaires ruraux, eh bien, il n'est pas rare de voir des propriétaires qui ont parfois un seul, mais souvent deux, trois exploitants dans l'évolution de leur propriété qu'ils ont confiée à des exploitants différents par rapport aux événements de la vie qu'ils ont eu à subir ou à organiser. Alors, je parlais des atouts en fonction des modes d'activité. Il est bien évident que quand on est viticulteur et qu'on peut bénéficier d'une parcelle d'un côté d'un chemin qui bénéficie d'une appellation, eh ben, si de l'autre côté du chemin il n'y a plus l'appellation, il est évident qu'on va se focaliser sur ces parcelles qui présentent un atout certain, ou du moins, comme on disait tout à l'heure avec la médiatisation, la possibilité d'exploiter une appellation contrôlée, ça va représenter un certain atout pour faire valoir sa production. Après, bien sûr, je passe rapidement sur le reste, c'est-à-dire la pédologie. On est dans une région où dans certains secteurs, on a quelque chose qui est somme toute assez homogène. On a des communes sur lesquelles on a très peu d'évolution de nature de sol. Et puis, on a des communes qui ont des sols qui sont très hétérogène et dans lequel les productions vont être complètement différentes, ne serait-ce que quand on passe d'un côté de la route à un autre. Après, l'organisation de l'exploitation agricole va aussi dépendre de la production qui est envisagée. On n'aura pas le même raisonnement si, bien sûr, on est éleveur ou si on est céréalier ou si on est forestier. La contrainte, l'hétérogénéité des sols est un frein qui oblige à parfois plus de traitements. Pas forcément plus de traitement, mais une attention soutenue, on l'a vu à l'instant. Aujourd'hui, dans les pratiques et dans les machines, on a parlé des tracteurs autonomes, mais on parle des dosages d'intrants qui sont vraiment calculés au plus juste possible sur les parcelles qui sont à traiter. Mais aussi, il y a ce qui est un peu plus ma spécialité, c'est la forme parcellaire. Qui fait que on va éviter autant que faire se peut les croisements, même si encore une fois aujourd'hui on a des outils qui sont plus performants qu'il y a un certain nombre d'années. Et puis on rencontre parfois des antinomies, c'est-à-dire des productions. Encore une fois, l'utilisation de l'outil foncier pour l'agriculture, des productions dans des endroits qui ne sont a priori pas forcément adapté. On en parlera un petit peu tout à l'heure sur un autre sujet. On voit des grandes cultures de maïs dans des zones de marais qui sont un peu le détournement d'une utilisation plus ancienne où on avait plutôt l'habitude de voir l'élevage dans les zones de bocage et dans les zones de marais et les grandes cultures dans d'autres endroits. Je ne m'étends pas plus sur le sujet puisque on a quelqu'un qui nous parlera peut-être d'élevage, mais toutes les rencontres que je peux avoir avec les exploitants sur la difficulté de maintenir de l'élevage vient aussi de cette gestion du cheptel et d'avoir en adéquation un outil foncier qui soit propice au développement de son activité principale. Et puis l'outil foncier pour l'agriculture, c'est un marché qui est censé avoir une régulation spécifique dans le cadre de la SAFER. Alors, quand je parle de régulation spécifique, on a parfois des surprises et certains peuvent être amenés à scier la branche sur laquelle ils sont assis. J'ai l'expérience de coûts du foncier qui ont atteint des sommets, des coûts du foncier agricole qui ont atteint des sommets et vraiment inconsidérés, tout simplement parce qu'il y avait une inflation vis-à-vis, en l'occurrence, du passage d'un grand ouvrage et où le marché s'est envolé. Alors après, évidemment, par rapport à cet outil foncier qui est indispensable pour l'agriculture, c'est difficile de maîtriser des terres sur lesquelles la régulation qui aurait dû s'opérer a été un petit peu défaillante. Alors à côté de ça, à côté de l'outil, le patrimoine foncier. Quand on parle de patrimoine foncier, on se place plutôt du côté du propriétaire, qui peut aussi être exploitant, mais qui ne l'est pas forcément. Dans les rencontres qu'on peut avoir avec les propriétaires, c'est souvent un héritage familial. Et cet héritage familial, il a une connotation émotionnelle assez forte. C'est très sensible, quel que soit le patrimoine en question. Quand on va parler d'une parcelle qu'on voudrait faire évoluer parce que elle n'est pas tout à fait adaptée à la destination qu'on lui réserve, on touche là à une sensibilité qui est parfois exacerbée. Donc pas forcément facile à faire évoluer. Quand on a un patrimoine foncier et puis quand on veut le faire grossir, là aussi, qu'on est propriétaire, il y a des acquisitions qui sont parfois difficiles parce que, en tant que propriétaire seul, même si on serait intéressé par des acquisitions parcellaires, on se heurte parfois à des priorités qui ne sont pas forcément bien comprises, pour ne pas dire plus. Ensuite, le propriétaire foncier dans le milieu rural, il est souvent soumis aux aléas des grands travaux. Parce que tous les ingénieurs qui calculent des travaux d'équipement, qui calculent quand on fait une déviation, quand on fait un grand ouvrage, on évite autant que faire se peut de taper dans le milieu bâti. Et si on ne tape pas dans le milieu bâti, on tape forcément dans le foncier rural, c'est-à-dire la forêt, l'agriculture, etc. etc. Donc on peut avoir des personnes, on en a rencontré, vous en avez déjà rencontré, qui se trouvent tout d'un coup sous le couperet d'un grand ouvrage, et puis qui ont l'impression que tous les efforts qu'ils ont faits depuis de nombreuses années pour maintenir leur patrimoine ou pour être en mesure de le transmettre à leur enfant, tous ces efforts-là sont réduits à néant. Et c'est comme s'il y avait... j'ai rencontré des personnes... quand on écrase une maison, quand on écrase un patrimoine qui est complètement groupé dans un endroit que l'on connaît depuis son enfance, c'est un choc émotionnel qui est assez fort et certains ont du mal à s'en remettre. Et donc, pour ça, il faut... essayer d'anticiper et de voir quel est l'impact et quelles mesures on peut mettre en face de ces inconvénients. Et puis, quand on a un patrimoine foncier rural important, c'est la transmission est parfois difficile. Sans vouloir remonter à quelques décennies en arrière où on avait le propriétaire était exploitant et il ne voulait surtout pas qu'un de ses enfants soit avantagé par rapport à un autre, et on tronçonnait autant que faire se peut pour équilibrer les lots et les donner aux uns aux autres dans la perspective d'un partage familial chaque branche suivant sa voie personnel, se trouvait avec un démembrement qui n'était pas satisfaisant. Qu'est-ce que ça entraîne ? C'est que à force d'avoir une transmission sur des patrimoines ruraux qui sont relativement limités, il n'est pas rare de rencontrer des propriétaires qui disent « Oui, je sais que j'ai une parcelle dans un coin, mais je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas combien elle fait, je ne saurais pas y aller parce que je ne la connais pas, et pourtant c'est son patrimoine foncier. » Alors ça peut être une dizaine d'arts, ça peut être une trentaine d'arts, dans les bois ça dépasse souvent l'hectare. Je suis incapable, moi je tiens cette parcelle de mon père et je ne suis incapable de la retrouver. Alors quand vous mettez à côté de ça un coût d'entretien et puis un rendement qui reste quand même pas extraordinaire dans des opérations, vous comprenez que transmettre un patrimoine comme ça à ses enfants, c'est pas forcément ce qui représente un grand intérêt. Alors que ce soit un outil ou que ce soit un patrimoine, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est sa destination. Quels sont les projets qu'on peut être amené à mettre en place? Quelles sont les activités qu'on peut développer? Et aujourd'hui, on voit mûrir un certain nombre d'activités qui n'existaient pas ces dernières années. J'ai coutume de dire qu'on ne travaille plus aujourd'hui comme on travaillait il y a 5 ans, et que dans 5 ans, on ne travaillera absolument pas comme on travaille aujourd'hui avec l'évolution des pratiques. Alors cette créativité, elle peut être individuelle. Moi, si j'ai un patrimoine foncier rural et que je veux m'en charger personnellement, certains vont dire je suis dans le Haut-Poitou, pourquoi pas essayer de recueillir, encore en ce moment ça reste encore possible, de recueillir des financements, des aides pour mettre en place une plantation viticole. D'autres, ça va être l'élevage de chèvres, les projets de boisement, on y reviendra aujourd'hui. Le boisement devient important parce que autant on s'est focalisé sur la rationalisation du parcellaire agricole, autant souvent le parcellaire boisé est resté sur le côté. Et aujourd'hui, on a un vrai retard par rapport à la filière bois, parce que la plupart de nos massifs forestiers, on est incapable de les exploiter parce qu'on est incapable d'arriver à maîtriser la propriété forestière. Après, d'autres pourront développer des projets de tourisme ruraux. Quand on veut diversifier son activité. Et puis on en parlait encore à midi, la production d'énergie, c'est quelque chose qui se développe. Je ne porterai pas de jugement de valeur. Je pense qu'à ce sujet, on n'a pas beaucoup de recul sur cette production d'énergie. Est-ce qu'elle est rentable? Comment va se traduire-t-elle? Je n'en sais rien. Mais encore une fois, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui arrivent à capter des financements pour mettre en place ce genre de production. Est-ce que c'est pérenne? Je ne me permettrai pas de juger. Ensuite, le projet collectif. Le projet collectif, eh bien, on l'a vu aussi en agriculture, c'est la mutualisation des investissements. Quand on arrive à se regrouper à plusieurs, eh bien, on arrive toujours à mettre en place un outil foncier ou un ensemble de parcelles qui va nous permettre de mutualiser les investissements. On a vu tout de suite avec l'entreprise que le coût des moyens à mettre en œuvre était de plus en plus important. Et donc, quand on veut essayer d'avoir un regard de gestionnaire un petit peu pertinent, on ne peut pas faire l'économie de cette tentation de mutualiser les investissements. Après, le foncier, ça peut être aussi une démarche collective au niveau des communes ou des communautés de communes ou des communautés d'agglomération dans la mise en place de zones de loisirs sur des secteurs qui seraient désaffectés. On parle aussi beaucoup des chemins de randonnée en foncier. On a souvent des obstacles sur les cheminements de randonnée qui butent, qu'on ne peut pas boucler parce qu'on rencontre un problème foncier. Et puis, dans la démarche aujourd'hui de regard qu'on peut avoir sur le foncier rural, il y a un thème, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a un thème qui se développe de manière très significative aujourd'hui, parce que ça va être on ne pourra pas passer à côté dans les prochaines années, c'est inévitablement la protection de la ressource en eau. La protection qualitative et la protection quantitative. Quand on voit la problématique que pose la qualité de l'eau dans des captages, avec des doses de certains produits qui se retrouvent, qui ne viennent pas forcément de l'agriculture. Je fais tout de suite l'aparté. Je préfère parler d'imperméabilisation des sols qui vont favoriser leur essuyage et que l'on retrouve dans les captages. Et donc là, il y a des mesures, il y a à inventer tout un processus d'aménagement pour permettre justement cette protection de la ressource en eau. Alors à partir du moment où on s'interroge sur le foncier, on peut passer en revue quelques outils qui nous permettent d'adapter notre foncier à l'activité qu'on va vouloir développer. Ces outils, ils sont codifiés. On peut envisager des échanges d'immeubles ruraux. Alors que ce soit des échanges de pratiques culturelles, tous les exploitants connaissent ça, les échanges de culture, quand on est deux, on arrive à peu près à les retrouver. Et puis, on sait très bien qu'avec l'évolution des exploitants, ces échanges de culture sont bien souvent multipliés par 2, puis 3, puis 7, puis 8. Et puis, au final, si vous demandez aujourd'hui la plupart des exploitants qu'on rencontre, si vous leur demandez de nous refaire le tracé des échanges de culture qu'ils ont pratiqués, ils sont quasiment dans l'impossibilité de vous dire où prend l'échange prend sa source, c'est-à-dire où peut-on remonter à l'origine de l'échange. L'avantage de cette pratique pour améliorer l'outil de production, c'est que on n'a pas de formalité, on n'a pas de formalisme et on s'arrange les uns avec les autres, même à échelle successive. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a aucune pérennité. Si demain l'exploitation se coupe en deux, tout ce qui était calé entre les exploitants risque de tomber. Donc aucune pérennité là-dessus. Ensuite, c'est un processus qui s'applique à un nombre de propriétaires limité, parce que quand on veut se mettre d'accord à deux, ça ne pose pas trop de soucis. Quand on est 10, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis sur un périmètre qui est relativement restreint, puisqu'on ne peut pas aller au-delà d'un certain périmètre pour faire ce nombre d'échanges. Par contre, on sait très bien que ces échanges, si vous êtes volontaire pour faire des échanges d'immeubles ruraux, ces échanges sont très souvent éligibles aux subventions qui seraient délivrées par les départements. À côté de ça, l'outil d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental. Alors, pour certains, je vais employer un gros mot. Le gros mot qu'on utilisait il y a quelques années encore, c'est le remembrement. Il ne faut pas en avoir peur. Aujourd'hui, et on va voir pourquoi, on n'utilise plus ce terme-là. Pourquoi ? Parce que on a constaté une extension constante des objectifs. Il fut un temps, après-guerre, où la seule préoccupation que l'on avait, c'était la production. Il fallait produire, il fallait nourrir la France. Et donc, on a fait des démarches qui répondaient à des objectifs de l'époque. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. On a une extension constante des objectifs. L'un des objectifs dont je parlais tout à l'heure, par exemple, la préservation de la ressource en eau, ça n'a pas grand-chose à voir avec la production agricole, encore que. Et donc, c'est justement cette évolution qui fait qu'aujourd'hui, on ne parle plus comme on le faisait et on ne réalise plus de projets comme on le faisait précédemment, mais on parle vraiment d'un aménagement du territoire dans toutes ses composantes. Et cet aménagement du territoire dans toutes ses composantes, il est foncier parce qu'il s'adresse aux propriétaires. Il est agricole parce que, n'oubliez pas ce que j'ai dit en introduction, il y a quand même les exploitants qui entretiennent le territoire. Il est forestier parce qu'il n'y a pas de raison de mettre la forêt sur le côté. La forêt est une préoccupation qui va aller grandissante. Et il est aussi environnemental parce qu'il doit se préoccuper de la préservation de l'environnement. Donc on est en présence d'une évolution permanente des procédures. Cet aménagement foncier qui a évolué, eh bien, il est généralement appliqué sur un périmètre territorial beaucoup plus large et donc beaucoup plus souple, beaucoup moins contraignant pour le propriétaire. C'est un véritable projet d'aménagement du territoire, je l'ai dit. Et ce qu'il faut retenir dans cette approche d'aménagement foncier rural, c'est qu'on est obligé d'engager une démarche qui doit être gagnant-gagnant pour tous les acteurs. C'est-à-dire on va retrouver des propriétaires, on va retrouver des exploitants, on va retrouver des personnes qui regardent qu'est-ce qui va se passer pour l'environnement. J'ai coutume d'employer le mot de construction environnementale dans le monde rural, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit et que tous les acteurs qui interviennent, et Dieu sait s'ils sont nombreux, dans une opération d'aménagement, doivent ressortir avec le sentiment que on a progressé, on a fait une construction prospective pour pouvoir donner à nos enfants un territoire qui se soit enrichi dans tous les sens du terme. Je voulais rajouter quelque chose, mais ça m'est sorti de la tête, ça va me revenir. Oui. Quand je dis une démarche gagnant-gagnant, c'est que les textes ont évolué depuis l'après-guerre, depuis 1945, et je ne saurais pas vous dire le nombre d'hectares ou le nombre de communes qui ont été concernées. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que la constante qu'on retrouve sur chacune des opérations qui ont été faites, c'est que vous ne trouverez personne qui veuillent revenir à la situation d'avant, que ce soit d'un point de vue agricole, que ce soit d'un point de vue foncier, que ce soit d'un point de vue environnemental. Parce que la construction environnementale est un des piliers de l'opération d'aménagement rural. Alors, juste pour finir, quelques exemples statistiques que vous pouvez voir sur des opérations qui sont des opérations réelles. Quand la propriété foncière, vous voyez l'image de gauche, vous n'arrivez pas à savoir qui est propriétaire, où et comment, tellement la mosaïque est importante. Et puis j'ai volontairement pris cet exemple pour vous dire que on ne va pas, dans une opération d'aménagement foncier aujourd'hui, on ne va pas aller à l'outrance du regroupement, de l'amélioration, parce qu'on est obligé, d'un point de vue impératif, de prendre en référence l'organisation du territoire et la partie environnementale que je ne peux pas développer ici, mais qui, je suis cantonné simplement à la propriété et à l'exploitation, mais qui est une composante très importante de l'opération d'aménagement. Alors on voit la situation d'un propriétaire, par exemple, vous voyez que ce n'est pas non plus des blocs phénoménaux, hein, mais l'intérêt pour le propriétaire, ben, ça va être voilà, d'avoir quelque chose qui est à peu près bien configuré et sur laquelle on va pouvoir transmettre l'aspect. Alors, l'intérêt de l'aménagement foncier, je passe très vite, hein, mais pour que vous ayez une vision de ce qu'il peut faire, c'est bien sûr ce que je disais tout à l'heure par rapport à des propriétaires qui ne savent même pas où sont leurs parcelles. Ben, c'est une propriété mieux connue et regroupée, moins d'îlots, donc une facilité pour l'exploitation. Une mise en valeur du patrimoine, parce que quand on a un patrimoine qui est bien connu et opérationnel, ben on en facilite la transmissibilité. L'accès, qui est quelque chose d'important, puisque c'est un des paramètres. Et puis, de permettre la mutualisation des aménagements si des infrastructures sont nécessaires. Il y a un intérêt pour les collectivités, mais je passe très rapidement. Puisque la possibilité de constituer un stock foncier. Aujourd'hui, vis-à-vis du tourisme, la révision du réseau de chemins paraît significatif, avec la possibilité de les border de haies, avec les possibilités de faire des itinéraires de découverte et tout ce qu'on peut viser dans l'aménagement du foncier rural. La possibilité de lever les verrous bloquants. Pour les exploitations, vous voyez les quelques statistiques de la même opération que je vous mets. Il est évident que quand on montre une amélioration du parcellaire pour une exploitation comme ça, inutile de dire que l'exploitant il va y retrouver son intérêt. Avec une remarque que je fais tout de suite, c'est que quand vous passez d'une situation de gauche à la situation de droite, l'exploitant en question, il n'en a rien à faire de perdre 30 ou 50 arts. Parce qu'à partir du moment où il a des parcelles, et on le disait tout à l'heure, avec des outils qui sont rentabilisés, que l'on perde 30, 50 arts et même un hectare, ce n'est pas le problème. C'est qu'on a des parcelles qui sont adaptées à la production qu'on veut développer. Et ces 50 arts, c'est pour ça que je dis que c'est gagnant-gagnant, ces 50 arts, ils sont affectés à la construction environnementale, dans des endroits qui sont spécifiques, adaptés, pour protéger les écoulements des ruissellements, etc., etc. Donc après, voilà, j'ai développé, mais je vois que je déborde un petit peu du temps, donc je vais très très vite. Des contraintes qui, je les laisserai en ligne hein, avec le support, des contraintes qui ont été référencées par les exploitants et la réponse qu'on peut y aborder, et des contraintes qui ont été recensées d'un point de vue environnemental et la réponse qui peut être apportée par l'aménagement foncier. Alors en conclusion, très vite, deux mots. J'ai posé la question du foncier rural comme étant soit l'outil, soit le patrimoine. J'espère vous avoir convaincu que c'est les deux à la fois. C'est qu'on travaille à la fois sur l'outil et qu'on doit aussi travailler sur le patrimoine. Merci.
Merci, monsieur Defouge, et merci d'avoir développé un point de vue un peu global à partir de votre pratique. C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ?
Je m'appelle Isabelle Janitor, je suis ingénieure des territoires et moi j'aimerais comprendre comment, à partir de ce qu'on vient de voir, ce qu'a présenté l'autre monsieur et puis ce que vous nous dites vous, on va aller vers une qualité du paysage et du cadre de vie. Parce que moi j'ai l'impression quand même que plus on va regrouper les surfaces, comment on va pas être tenté d'enlever une haie entre deux parcelles parce que justement elles sont l'une à côté de l'autre et que pour tous ces jolis tracteurs qui vont se conduire tout seuls, effectivement, quand il y aura 50 virages à faire mais qu'il n'y en aura plus que deux parce qu'il y aura une très grande parcelle, comment on va pas être tenté de faire abstraction de tout ça ? Moi, je suis un peu perplexe.
Alors, je vais vous répondre. D'abord parce que dans ce genre d'opération, on est encadré par des prescriptions de l'État. Il y a un État initial à l'origine. Il y a un programme qui est adopté et qui définit les règles du jeu et qui sont définies par les services de l'État. Et il y a une évaluation à la sortie d'opérations. Si on prend pour exemple les dernières opérations qui sont traitées, la construction environnementale est à peu près du ratio de 1 à 3. C'est-à-dire que si on enlève 10 mètres de buissons ou de haies qui peuvent gêner un endroit, on en replante 30 mètres minimum. Donc, quand je vous dis ça, c'est pas simplement par rapport à cet aspect quantitatif, c'est aussi par rapport à l'aspect qualitatif. Et ça, c'est indépendant, c'est fait par un organisme indépendant de celui qui traite l'opération. C'est-à-dire, il est pas partie prenante dans l'opération. Il est simplement là pour dire, voilà, ici, il y a un boisement linéaire de valeur, il doit impérativement être conservé. À côté de ça, il y a un roncier qui peut être enlevé, et celui-là, il n'a pas de valeur patrimoniale, si je puis dire. Mais quand bien même il n'aurait pas de valeur patrimoniale, d'un point de vue faune, flore, gibier, etc., la balance d'équivalence, généralement, est de 1 à 3. Pour prendre un exemple dans une opération récente, si vous considérez que... dans l'opération que j'ai en tête, il y a eu à peu près 15 km de haies qui ont été reconstituées, alors que je parlais tout à l'heure des chemins de randonnée, qui ont été reconstitués le long des chemins, justement pour, non pas d'un point de vue ratio, destruction, reconstruction, mais justement parce que la volonté de la commune dans l'opération d'aménagement, c'était d'aménager ces chemins de randonnée. Donc, comme je disais tout à l'heure, qu'on pouvait dégager des emprises pour faire des aménagements paysagers, la commune a mis la main à la poche. Elle a dit, moi, je suis d'accord pour faire l'opération, mais je veux que l'on plante sur des axes principaux. Et ces plantations ont été faites. Donc, voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que c'est gagnant-gagnant. C'est que d'un côté, effectivement, on peut améliorer la situation du parcellaire agricole, mais de l'autre côté, il faut aussi qu'on améliore la situation de l'environnement par la protection des zones humides, par la protection des bords de cours d'eau, etc., etc.
On prend encore deux questions.
Merci. Jean-Claude Vignery, j'enseigne entre autres la planification urbaine, la géographie urbaine. Je m'interroge sur les conséquences de la loi Allure, qui a pour objectif, entre autres, de lutter contre l'étalement urbain, de protéger les terres agricoles et naturelles. Dans votre profession, est-ce que vous constatez déjà des effets sur cette protection des terres agricoles? Vous avez évoqué les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. On voit de plus en plus la mise en place de trames vertes, et notamment, bleu. De protection. Est-ce que vous le constatez, vous, au niveau des terres agricoles?
Alors, on le constate au niveau des terres agricoles, et ça va aller dans le sens de l'analyse de l'état initial avant de mener un projet. Dans cette analyse d'état initial, sous couvert de l'État, sont édictées des règles de protection. C'est-à-dire que quand on est amené à intervenir sur un périmètre, il y a un certain nombre de secteurs qui apparaissent comme étant particulièrement sensibles, qui ne doivent pas subir d'impact de l'opération. Ça peut être des zones humides, ça peut être des zones de marais, ça peut être des plantations linéaires, ça peut être des boisements, que sais-je encore. Et le résultat de ce diagnostic que l'on ne peut pas faire dans une étude de PLU, parce que ce n'est pas l'objet, on ne la fait pas dans l'étude de PLU. Et en fait, ce que l'on préconise, c'est que cet état initial de l'aménagement du foncier rural soit repris dans les études de PLU de manière à ce que il y ait un enregistrement de la valeur patrimoniale des secteurs qui sont faits dans le monde rural. Donc c'est la transcription des éléments qui sont de l'état initial qui sont retranscrits dans le PLU après.
On prend une dernière question, peut-être vous aussi, monsieur de la Forquette, ou vous interviendrez après. Enfin, on va la prendre, mais je demanderai à Émilie Morin, par ailleurs, de rejoindre la table. Comme ça, ça permettra de... parce qu'on prend un peu trop tard.
Hélène Heinz-Chemwell de Terre de Liens. Vous avez évoqué à deux, trois reprises la protection de la ressource en eau.
Oui.
par rapport à la qualité et la quantité de l'eau potable. Et vous disiez qu'il y a tout un processus d'aménagement à inventer.
Oui.
Vous voulez dire par là que pour le moment, il n'y a rien en place pour pouvoir protéger...
Non, je dis que pour l'instant, il y a des mesures qui sont en place. Vous connaissez les mesures de protection rapprochée, immédiate, éloignée des captages. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que dès qu'on dépasse la zone du périmètre immédiat, il y a des pratiques qu'il faut privilégier dans certains secteurs par rapport à d'autres. Voilà. Et c'est là où le rôle de l'aménagement foncier est à définir, c'est-à-dire comment, par rapport à un équilibre des pratiques, à la limitation des ruissellements, à mettre en place des mesures paysagères de protection, on va pouvoir filtrer les eaux et arriver à améliorer cette qualité de la ressource en eau.
Donc, dernière question courte et réponse courte.
Bon, Patrick de la Forcade, ce n'est pas une question, c'est une remarque. J'espère avoir le temps de m'exprimer tout à l'heure et d'expliquer ma remarque. Vous avez dit que la part croissante des exploitants, des propriétaires non exploitants. Alors, je ne dirai pas ça de cette façon et j'espère pouvoir dire pourquoi tout à l'heure.
D'accord.
Merci en tous les cas. Mais comme vous restez parmi nous, monsieur Defouche, encore... Je pense que les gens pourront encore vous interroger s'ils le souhaitent. Donc, Émilie Morin du réseau Impact, Poitou-Charentes, mais plus maintenant, Nouvelle-Aquitaine, enfin, vous allez nous dire. À vous.
Bonjour, merci. Donc, moi, je suis coordinatrice du réseau Impact Nouvelle-Aquitaine. Je n'ai pas encore pris le pli. Donc, Impact, ça signifie Initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale. Donc, c'est un réseau associatif. Donc, on est passé Nouvelle-Aquitaine très récemment, là, courant juin dernier. C'est un réseau d'acteurs associatifs qui œuvre dans le champ du développement agricole et rural. Donc voilà, vous les avez juste là en face de vous. On a des acteurs qui sont assez variés. On a par exemple Accès à Plus qui est un centre de gestion et de comptabilité. La FIPAR qui travaille notamment sur le développement des circuits courts. L'ARDEAR qui travaille sur l'installation, l'accompagnement à l'installation des porteurs de projets agricoles. Le réseau, la Fédération régionale d'agriculture biologique, qui accompagne et qui représente les agriculteurs biologiques. Cultivons la biodiversité en Poitou-Charentes, qui travaille sur la sauvegarde des semences et de la biodiversité. Solidarité paysan sur le développement, l'accompagnement des agriculteurs en difficulté. Et puis la Fédération régionale des CIVAM, des centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Et puis le dernier, c'est Terre de Liens, sur lequel je vais m'attarder un peu plus aujourd'hui parce qu'il est question de foncier et que c'est l'acteur qui va peut-être le plus intervenir sur cette question-là. Donc Terre de Liens qui développe des projets d'accès collectif et solidaire aux fonciers. Donc c'est un réseau qui, en Poitou-Charentes, existe depuis 2005 et qui s'est construit donc tout récemment à l'échelle Nouvelle-Aquitaine. Alors les mots créativité et territoire nous vont assez bien, on a l'habitude de les utiliser parce que ce qui rassemble en fait tous les acteurs de ce réseau, c'est justement une agriculture qu'on considère créative et en lien avec son territoire. Alors qu'est-ce qu'on considère comme une agriculture créative et qui est en lien avec son territoire? Eh bien, c'est une agriculture pour nous qui participe à la relocalisation des moyens de production, de transformation et de commercialisation. Et donc ça va passer par des initiatives collectives de producteurs qui vont monter ensemble par exemple des outils de transformation de leurs produits pour faire de la vente directe ou de la vente aux grandes surfaces également, ou par de la création de magasins de producteurs. C'est quelques exemples. On considère aussi que c'est une agriculture que nous on accompagne qui maintient et qui crée des emplois en milieu rural. Je vais le développer un petit peu avec l'accompagnement des porteurs de projets qu'on peut faire et qui par là même participe au bien-être et au dynamisme et au développement local. Tout ça se décline en fait. Ça favorise évidemment les liens sociaux, l'entraide et la solidarité sur les territoires. Donc, en fait, nous, ce qu'on défend globalement, c'est une agriculture avec des exploitants et des... Alors, on a plus l'habitude de parler de paysans dans notre réseau, avec des agriculteurs nombreux sur les territoires, en considérant que c'est par une agriculture diversifiée et avec des acteurs nombreux sur les territoires qu'on peut aussi faire vivre ces territoires. On peut les faire vivre par la production agricole, mais aussi par le maintien d'une biodiversité, par le maintien de paysages diversifiés, par le maintien d'une identité du territoire, d'une culture, de liens sociaux, etc. Donc voilà, on est principalement sur le champ agricole, mais on est très largement ouvert aussi, puisque Initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale, les acteurs de notre réseau, ce sont également des citoyens. C'est-à-dire que dans les conseils d'administration qui composent les membres de nos adhérents, il n'y a pas que des agriculteurs, mais on est bien ouvert à d'autres acteurs très, très variés. Notre rôle, c'est d'accompagner. Alors, il y a plusieurs choses. Là, je décris d'une manière globale ce qui est fait par les acteurs de notre réseau, mais c'est d'accompagner les porteurs de projets agricoles et ruraux. C'est de faire vivre toutes les alternatives qui ne sont pas forcément accompagnées par des acteurs institutionnels, puisque nous, on est associatifs. Et puis, donc, c'est de créer ces dynamiques, c'est d'expérimenter, d'innover et d'être un laboratoire des possibles. On essaye, notre philosophie en tant que réseau, ce qui nous rassemble, c'est bien d'essayer d'identifier des choses qui émergent ici et là, et puis de favoriser, d'accompagner ces initiatives. Par exemple, un exemple assez récent que j'ai en tête, c'est une de mes collègues a identifié qu'il y avait beaucoup de brasseurs en ce moment qui se mettent donc à produire de la bière. C'est vraiment une mode. Et donc, en région Poitou, enfin ex-Poitou-Charente, on a identifié qu'il y avait peut-être besoin de rassembler ces acteurs-là pour développer une malterie commune, donc pour fabriquer le malt et pour fabriquer du malt local, donc le lien entre artisans là, et agriculteurs. Donc, on a rassemblé tous ces acteurs autour de la table et il y a aujourd'hui un projet de malterie qui va émerger en Charente-Maritime. Voilà. Donc ça, c'est vraiment d'accompagner dès l'émergence des projets qui manquent parfois de moyens d'ingénierie, tout simplement, d'animation, de services de relais, d'aller trouver l'information pour ces acteurs-là. Les trois axes de travail du réseau, alors je l'ai déjà un petit peu dit, mais voilà, c'est ça qui rassemble l'ensemble de nos acteurs. C'est 1. Favoriser la transition des pratiques agricoles vers des systèmes agroécologiques. Donc c'est travailler sur la formation des agriculteurs, faire de l'expérimentation avec eux, que ce soit sur de l'agroforesterie, que ce soit de la conversion biologique, que ce soit de l'introduction de... Enfin voilà, il y a énormément d'expérimentations qui sont aussi à l'échelle nationale sur lesquelles on travaille, avec les partenaires de la recherche, notamment l'INRA, etc. C'est le deuxième axe, impulser la relocalisation des activités de transformation, donc accompagner les magasins de producteurs, accompagner les producteurs en individuel aussi qui veulent faire de la vente directe ou de la transformation. On a récemment, enfin il y a quelques années, accompagné la création d'une CUMA pour un outil de découpe pour des producteurs, pour des éleveurs, voilà, tout simplement. Et puis accompagner l'installation en agriculture, la diversification et la création plus globalement, d'activités en milieu rural. Alors, je m'attarde plus précisément sur cet accompagnement à l'installation du réseau, enfin, qu'on peut faire dans le réseau, puisque ça a un lien direct avec le foncier. Donc, notre objectif, je l'ai déjà un peu dit, c'est d'accompagner des installations sur des fermes plutôt à taille humaine, avec une recherche d'autonomie, que ces fermes puissent être autonomes dans leurs pratiques. Alors souvent, ce sont des installations qui vont miser sur les circuits courts, mais pas que, qui vont être dans des productions qui vont être en respect de la terre et des consommateurs, et puis aussi des installations souvent qui sont en collectif. De plus en plus, on est amené à accompagner des projets collectifs qui permettent de répondre au renouvellement des générations agricoles, puisque ça, c'est très connu, on a un vrai problème de renouvellement des générations, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui arrivent à la retraite. On est aujourd'hui avec des exploitations qui sont de très grande taille, de plus en plus, et qui sont donc des exploitations difficiles à transmettre. Et là, je vous mets un exemple qui est assez récent d'une ferme dans le Limousin, qui était donc autour de 86 hectares, donc ce n'est pas une très grosse ferme, mais qui était gérée à l'origine par deux personnes et qui a été reprise par un collectif de 10 personnes sur des productions variées. Donc ça passe par de l'élevage, de la production de céréales pour du pain, donc il y a différents ateliers d'élevage, etc. Et c'est une acquisition qui a été faite par Terre de Liens, dont je vais parler
un tout petit peu plus loin, puisque les personnes ne souhaitaient pas, pour des raisons de souplesse notamment, de départ d'un associé ou d'accueil d'un nouvel associé, ne souhaitaient pas être propriétaires. Donc on voit qu'il y a une évolution aussi de la mentalité des nouveaux installés qui ne souhaitent pas nécessairement être propriétaires et qui n'en ont pas souvent la capacité à être propriétaires, hein, tout simplement, étant donné le coût du foncier. Donc voilà, là je remets un peu les problématiques que les porteurs de projets rencontrent quand on les reçoit, quand mes collègues les reçoivent, c'est l'obtention, chercher et obtenir des financements pour leurs projets. Et puis la grosse contrainte, c'est l'accès au foncier agricole. Alors pourquoi l'accès au foncier agricole ? Bah parce qu'il y a un coût élevé. Là, je prends des chiffres donc, qui sont sur 6 ans, mais si on prend sur 10 ou 20 ans, l'explosion est encore plus forte. Donc entre 2010 et 2016, il y a eu une augmentation du prix des terres de 18%. Alors à l'échelle nationale, donc ça c'est une moyenne, hein, évidemment, il y a des endroits où ça a encore plus explosé, d'autres où ça s'est plus stabilisé. Alors même que, c'est ça qui est intéressant, le revenu des exploitants a baissé en moyenne encore de 30%. Donc vous imaginez l'endettement à l'échelle de la carrière que ça peut provoquer hein, chez les agriculteurs. Là aussi, c'est une moyenne, hein, évidemment, c'est l'élevage qui a le plus souffert en termes de revenus par rapport aux autres productions. D'autres contraintes aussi, à l'allocation, il peut y avoir des contraintes, hein, parce que ce n'est pas forcément évident d'avoir une visibilité sur le marché locatif du foncier quand on est un porteur de projet. Étant donné son caractère privé. Et puis, il y a aussi les porteurs de projets qui viennent nous voir sont aussi face parfois à des réticences hein, de propriétaires qui ne veulent pas forcément louer à des nouveaux agriculteurs et qui préfèrent louer à des agriculteurs qui sont déjà en place, en fait, qu'ils connaissent. Voilà. Et puis, troisième, mais ça va avec, troisième difficulté, c'est la concurrence, c'est la pression foncière qui est très forte et qui défavorise les personnes qui souhaitent créer aujourd'hui une exploitation agricole par rapport à des gens qui sont déjà en place. Et donc l'artificialisation dont on a parlé un tout petit peu tout à l'heure exacerbe cette pression foncière, puisqu'aujourd'hui on est sur des chiffres, alors il y a souvent une comparaison qui est faite, c'est on artificialise en moyenne l'équivalent d'un département en surface tous les 7 ans. Donc forcément, le prix du foncier est aussi lié à cette problématique-là. Alors l'accompagnement des porteurs de projets qu'on peut faire dans le cadre du réseau, ça va être de la mise, bien souvent de la mise en relation avec les acteurs du territoire, puisque notre réseau, notre particularité, et j'ai envie de dire notre force, c'est d'avoir des adhérents, agriculteurs ou non, mais qui sont présents un peu partout sur le territoire et qui sont intéressés, qui ont une connaissance de ce territoire-là. Donc quand on rencontre des porteurs de projets, ça va être de leur donner des contacts, de dire allez voir cette personne-là, vous êtes sur ce secteur-là, allez discuter, allez rencontrer des acteurs. C'est aussi comme ça que vous allez pouvoir trouver du foncier, trouver un cédant qui recherche à transmettre son exploitation. Il y a aussi évidemment un accompagnement individuel ou collectif sur la stratégie foncière, et là l'ensemble de nos membres font ce travail-là. Et puis l'animation de collectifs d'investisseurs solidaires pour l'acquisition collective, et ça c'est un travail plus particulier qui est mené par Terre de Liens. Et vous pourrez rajouter des choses, parce qu'il y a des gens de Terre de Liens ici, si je me trompe. Donc Terre de Liens, c'est un mouvement citoyen, donc c'est une association hein, qui a pour objectif d'appuyer à la création d'activités et d'emplois socialement et économiquement innovants et écologiquement responsables en milieu rural et périurbain. Alors c'est une structure qui va faire de l'accompagnement à l'acquisition et à la transmission de foncier, en rencontrant des porteurs de projets, en rencontrant des cédants. Et puis il va y avoir un gros volet sur la sensibilisation du grand public à ces enjeux fonciers. Troisième axe de travail, c'est la gestion de structures d'achat collectif. Donc on va mobiliser autour d'un porteur de projet de l'épargne collectif pour pouvoir permettre à ce porteur de projet de s'installer. Donc ça, c'est quand même assez innovant comme manière de faire. Et puis il y a aussi un volet d'appui juridique et technique au montage de sociétés. Alors on en parlait tout à l'heure, notamment les GFA, donc les groupements fonciers agricoles ou les sociétés civiles immobilières. Alors c'est des formes juridiques qui sont anciennes et qui sont beaucoup utilisées hein, par le monde agricole. La Terre de Liens les mobilise un petit peu différemment. L'idée, justement, c'est d'utiliser ces outils-là pour pouvoir créer autour d'un porteur de projet un groupe qui va mobiliser son épargne et qui va investir dans du foncier pour installer un porteur de projet. Alors là, juste un mot sur la foncière Terre de Liens. La foncière, donc, c'est une société commandite par action, hein, c'est ça, qui est à l'échelle nationale et qui va collecter de l'épargne de personnes physiques et morales pour acquérir du foncier rural et emporter la propriété à long terme. L'objectif, c'est que cette propriété reste... c'est Terre de Liens, la foncière Terre de Liens qui va rester propriétaire. Et qui va en assurer une gestion sociale et écologique avec des baux ruraux qui vont être passés aux fermiers en place. Donc ça, c'est une institution, enfin une structure nationale qui va appuyer des projets locaux. On va mobiliser de l'épargne à l'échelle locale et puis on va avoir un appui de financement participatif de l'échelle nationale. J'en ai parlé tout à l'heure des sociétés civiles immobilières et des GFA qui sont, donc Terre de Liens anime parfois, quand il y a des demandes, la constitution d'un groupe autour de ces groupements fonciers agricoles. Et puis un autre outil qui me semble assez innovant pour repenser aussi les questions de fonciers agricoles, ça ne sert pas qu'à ça, mais je vous en parle parce que c'est quelque chose qui est en train d'émerger aussi, c'est l'espace test agricole. Donc l'espace test agricole, c'est un cadre qui permet à des nouveaux porteurs de projets de se tester sur une activité agricole. En fait, on parlait du problème de renouvellement des générations. Il y a aussi une part importante de nouveaux porteurs de projets agricoles, des gens qu'on appelle des hors-cadres familiaux, des gens qui ne sont pas du milieu agricole, mais qui souhaitent s'installer et qui ont parfois besoin aussi de tester une activité. Parce que le métier d'agriculteur, parfois, ça peut être quelque chose de rêvé et quelque chose qui n'est pas très concret dans la tête de certains. Donc c'est un outil, un dispositif, l'espace test agricole, qui permet à des nouveaux agriculteurs de se tester sur une surface, sur une durée limitée et qui permet de limiter aussi le risque. Hein, donc on va leur fournir un cadre juridique, etc. Pourquoi je vous parle de ça ici? C'est parce qu'on va notamment leur fournir le foncier, enfin un espace, donc le moyen de production pour tester leur activité. Et c'est un outil, donc Champ du Partage, c'est la structure qui porte les espaces tests agricoles en région Aix-Poitou-Charentes. Il y a d'autres interlocuteurs en Aix-Limousin et Aix-Aquitaine. Et c'est un outil qui de plus en plus va être mobilisé par des collectivités locales qui souvent ont du foncier et qui souhaitent. Alors, il y a l'émergence, vous avez sans doute entendu parler de ça, des plans alimentaires territoriaux. Donc, les collectivités locales souhaitent aussi réinvestir le champ du développement agricole et installer. Alors, ça passe souvent par le maraîchage parce que ça se prête bien. Hein, l'outil espace test se prête bien à des activités de maraîchage. Donc les collectivités s'emparent de cet outil-là pour faire un petit peu le point sur le foncier dont elles disposent et puis travailler avec des acteurs du développement que nous sommes pour pouvoir justement permettre à des nouveaux agriculteurs de se tester et puis pourquoi pas ensuite de s'installer. Un espace test peut être un espace de test au début puis finalement devenir une réelle installation. C'est quelque chose d'assez mouvant. Voilà, j'en dis pas plus, c'était les deux outils que je voulais détailler. Puis vous avez toutes nos informations, plus d'informations sur notre site.
Merci beaucoup, Émilie Moulin. Signalez aussi peut-être qu'il y a des documents sur table. Voilà, si vous voulez vous servir et en savoir un peu plus. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Et merci aussi pour la brièveté de votre intervention. C'est bien, on rattrape. Merci. Et s'il y a des compléments?
Je voulais savoir, oui.
En fait, c'est né de cette mouvance-là. C'est-à-dire que les pépinières d'entreprise, les coopératives d'activité notamment, comme peut-être ici vous connaissez ACEA SCOP, qui est basé à Châtellerault, donc qui permettent à des gens de tester et d'avoir un cadre juridique pour une activité indépendante. On a commencé à travailler avec eux et on s'est rendu compte que leur proposition n'était pas tout à fait adaptée au milieu agricole. Et donc, effectivement, dans Champ du Partage qui travaille sur les espaces tests, il y a la fonction pépinière. n'y a pas que ça, mais il y a entre autres cette fonction de pépinière.
On pourrait même dire Fab Lab, tiers-lieu, puisqu'il y a aussi une coopérative des tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine. Ça
ouais,
être
oui, 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 c'est un peu dans cet esprit-là, effectivement. Mmh.
Pour lever les capitaux, je veux dire, il y a une certaine éthique, il y a des plafonds de capitaux et tout. Alors demain, une banque peut venir avec, je mets 50 millions d'euros et puis dire, je viens et je soutiens Terre de Liens. Comment ça se passe pour lever les capitaux?
Alors là, il y a des gens qui sont tout à fait... Non, alors il y a effectivement un cadre réglementaire, qui, c'est la fondation... Ouais, mais je vous laisse répondre là-dessus parce que...
Oui, en fait, il y a d'un côté l'association, les membres bénévoles comme nous, hein, qui accompagnons les acteurs sur le terrain. Et puis, il y a une fondation qui s'est créée, donc, qui, elle, gère toute la partie dons. Voilà.
Et il y a deux outils. Il y a la fondation qui gère les dons et la foncière qui, elle, gère des actions. Hein, les gens peuvent prendre des actions. Chaque action vaut 102, 102, 103 euros. Et donc, on devient actionnaire. Et donc, et c'est la foncière. Mais alors, écoutez, à ma connaissance, je ne sais pas. Mais dans le Poitou-Charentes, c'est jamais arrivé. Hein. C'est ce que des individuels. Hein. Ce sont des... De... Oui, bien sûr.
Ben, Monsieur Kay, précisément, à vous. Merci, Émilie Morin. Merci. Donc, je vous laisse le soin de vous présenter, de dire en quelques mots la ferme Saint-Vite, depuis 5 ans, je crois. Nombre de fréquentations, enfin voilà, rapidement.
Bon, Michel Cayet, je suis donc agriculteur, éleveur de bovins viande à Vivonne, en association avec mon fils Raphaël. Et je suis aussi membre de Chambre d'agriculture et président de la ferme Saint-Vite depuis 5 ans. Historiquement, le concours Charolais Ouest européen, il y a 5 ans, au niveau de la Chambre d'agriculture, enfin, un certain nombre ont souhaité insuffler quelque chose. Hein. La manifestation commençait à perdre un petit peu en intérêt et en nombre de visiteurs. Et donc, on a relancé, en partant toujours de la même association, c'est une association loi 1901, ça s'appelait concours Charolais Ouest Européen, on l'a appelé la ferme Saint-Vite, et puis on a fait évoluer un peu les statuts pour l'adapter à toutes les races, à toutes les espèces. Et voilà, avec l'appui de plusieurs agents de chambre, et puis un bon socle d'éleveurs, un socle d'éleveurs qu'on a tout de suite élargi. Eh bien, on a un petit peu construit quelque chose la première année, les y rajouter un petit peu d'animaux, un peu d'espèces, un petit peu de stands. Et puis on a eu 7000 visiteurs la première année. Et puis la deuxième année, on en a rajouté un petit peu, encore de nouvelles idées. Hein, tout le monde. Disons que on est ouvert à toutes les idées, tout ce qui touche à l'élevage. Ça s'appelle la ferme Saint-Vite et en dessous, on a notre petit slogan, passion élevage. Et on a vraiment regroupé des passionnés de l'élevage. Donc la deuxième année, ben, on avait un nouvel effort. On a fait donc 15 000 entrées. Et puis la troisième année, on avait fait donc un travail de préparation. On a capté le concours national limousin, de la race limousine, qui une année sur deux, donc il est à Limoges et ensuite il sort un petit peu. Et là, on a occupé donc l'ensemble du parc des expositions. Plus de travail, plus de préparation, mais une très bonne mobilisation des éleveurs, de la chambre d'agriculture. Et là, on a fait plus de 30 000 entrées, donc encourageant, très content pour les éleveurs du département, très content pour un département comme la Vienne, qui est de moins en moins un département d'élevage. Et ben, l'année suivante, on a continué sur la même lancée. On n'avait pas d'événement national, mais par contre, on a pu faire un très beau concours interrégional de vaches laitières, Primochten, concours national de moutons Suffolk sur deux halls. Et puis, on a eu à nouveau plus de 30 000 entrées sur deux halls. Un travail de préparation important, toujours porté par l'association, avec un gros travail de mise en place fait par les bénévoles et de démontage, toutes ces choses-là. Voilà, et puis cette année à nouveau un événement national quoi, ça s'est passé le week-end dernier. Oui, j'ai pas de visuel, j'espère que vous avez tous eu les visuels de la ferme Saint-Vite parce qu'on a quand même fait une grosse com où vous êtes venus ce week-end. Et donc le week-end, on en sort juste, hein. Hier je finissais le démontage, j'avais tout, voilà, on en sort juste, on a eu le concours national Charolais, avec après un ensemble de concours au vin, et puis les limousines, les chevaux, hein, et différentes choses, toujours autour de l'élevage et tous les partenaires de l'élevage et tout ce qui tient à l'élevage. Donc On avait organisé cette grosse manifestation avec à nouveau une très grosse fréquentation, hein, plus de 30 000 visiteurs. Donc c'est une manifestation qui a été voulue par les éleveurs, que, très en lien avec le territoire. On fait très attention à faire intervenir tous les éleveurs des alentours de Poitiers, du département. On aime amener des événements nationaux, mais on fait très attention à ce que ce soit vraiment une manifestation de territoire, parce que c'est indispensable pour un département comme le nôtre. Il nous fallait ça. Il nous fallait ça pour les éleveurs qui sont, j'allais pas dire malmenés, mais qui se sentent de plus en plus isolés sur le territoire, parce qu'ils sont loin les uns des autres, parce qu'ils travaillent beaucoup. Il y a de moins en moins de monde sur les exploitations. Donc il fallait faire une vitrine, c'est beaucoup dire, parce que c'est pas une vitrine non plus, parce que ça, c'est très représentatif de notre élevage, de ce qui se fait dans notre département. Donc c'était quand on se retrouve pour la préparation, parce que ça se prépare sur un an, vu que la manifestation a lieu tous les ans, soit en septembre, soit en novembre. Quand on se retrouve tous ensemble, ça nous fait du bien. C'était ce qu'on a voulu sur cette manifestation. Tout à l'heure, je ne sais plus qui a parlé. Oui, c'est vous qui avez parlé. Il y a des hommes sur le territoire et tout. Il y a des hommes et des femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes en élevage aussi. Hein, désolé, mais il y a beaucoup de... Et quand on se retrouve pour préparer, donc entre collègues, entre agriculteurs, agricultrices et tout, on prend beaucoup de plaisir à tout cet aspect humain. Et depuis maintenant 5 ans, c'était la 5e manifestation cette année, et c'était le but, c'était l'aspect humain, on a créé du lien entre toutes les races, toutes les espèces, et il commence à s'articuler des choses entre tout ça. Quand on fait le montage, le démontage, on est tous ensemble. Et c'était vraiment sur cette manifestation-là, on ne voulait surtout pas en faire une foire expo, hein, c'était vraiment que c'est un caractère, un salon agricole, un beau salon agricole où tout le monde se retrouve, mais avec une ambiance, souvent je dis l'ambiance du champ de foire, quoi. L'ambiance du champ de foire où c'est sympa, où on regarde, on amène les animaux, on amène les beaux animaux, il y a l'aspect concours qui est l'aspect très professionnel, où il est indispensable pour motiver les éleveurs, pour que les éleveurs viennent, mais il y a aussi l'aspect où on a envie de communiquer avec le monde urbain, on a envie de montrer ce qu'on fait de beau. Hein, Philippe tout à l'heure a évoqué qu'on est souvent malmené. Même sur cette manifestation, on est malmené. Et je peux vous dire que les éleveurs le vivent mal quand ils sont un petit peu malmenés à l'entrée de la manifestation ou encore un petit peu comme ça. Bien, on voulait montrer ce qu'on fait de beau, ce qu'on fait de bien et le faire partager au public poitevin, enfin tout le public plus largement, quoi. Alors je pense qu'on y arrive puisque le public vient nous voir. On a mis en place des espaces de convivialité et où tout le monde se retrouve. Et pour y avoir participé, c'est tout frais. Ça fait du bien parce qu'on est, nous éleveurs, on est sur ces territoires. On a beaucoup parlé de foncier. Je vais y venir un petit peu parce que j'ai deux, trois trucs sur le cœur et j'ai envie d'en parler quand même. Et le rôle, on a parlé de foncier, on a parlé de qualité de l'eau et tout. Et le rôle de l'élevage, que c'est au salon, on parle beaucoup élevage allaitant, on parle beaucoup des moutons. C'est le rôle de la prairie. Nous, éleveurs, on a des choses extraordinaires à vendre, on n'a jamais su les vendre, on n'a jamais su parler de nos prairies, on n'a jamais su parler du filtre extraordinaire de toutes nos prairies temporaires qu'on a partout sur le territoire. Alors là, c'est l'occasion de dire, vous voyez, on est là avec tous nos herbivores, voilà, tous nos herbivores qui sont là avec toutes nos prairies qui servent de filtre pour la qualité de l'eau. Donc on a plein de choses à vendre, on a plein de choses à communiquer. On ne le fait pas encore de façon parfaite, on a commencé, on espère continuer, et on espère continuer sur cette voie-là, en créant vraiment du lien, d'abord du lien entre nous éleveurs, entre nous agriculteurs, et en créant du lien, justement, recréer du lien, parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, en recréant du lien avec le reste de la société. C'est vraiment le but de cette manifestation. Donc on souhaite qu'elle ait une ampleur, on souhaite que... Mais au-delà des chiffres de fréquentation et tout, il n'y a pas que ça. Il y a une autre dimension. On souhaite qu'il y ait vraiment une autre dimension. Donc voilà pour toute cette partie-là. Et je vais donc, puisqu'on a parlé du foncier, des aménagements fonciers, tout ça, comme je suis agriculteur à Vivonne, j'ai côtoyé tout ça. Aujourd'hui, l'aspect foncier, nous, on est sur un territoire où on est plusieurs, des agriculteurs de ma génération. On est presque en train d'entrer en résistance. Moi, avec mes collègues, là, on est plusieurs parce qu'il y a deux agricultures. D'ailleurs, il y en a certains qui le disent ouvertement. Il y a deux agricultures qui se mettent en place. Mais le problème, je cesse de demander s'il n'y a pas une agriculture à un moment donné qui va carrément prendre le pas sur l'autre. Alors à un moment où la société a des attentes de relocalisation de la production et tout, Il y a aussi une agriculture qui demande beaucoup d'espace et que c'est plutôt une agriculture pour l'exportation. Alors qu'il y a encore une place pour les exploitations de taille moyenne. Nous, on était sur un territoire où on avait beaucoup d'exploitations de taille moyenne en polyculture, élevage, tout. Et on a l'impression qu'à une vitesse ahurissante, c'est en train de s'effondrer pour une raison de génération, tout simplement. Hein. Génération et un accès très compliqué pour le renouvellement parce que le coût de l'installation. Donc, des choses comme Terre de Liens, parce que je peux. Puis il y a un notaire qui interviendra après. Je regrette que vous n'ayez pas intervenu avant moi. Comme ça, j'aurais pu. On avait le portage du foncier. Le portage du foncier, l'accès au foncier pour les jeunes. Enfin, c'est devenu quasi impossible. Hein, pour le peu qu'aujourd'hui, on ait des gens, enfin, des investisseurs qui arrivent, donc qui ne discutent pas le prix, parce que bon, ce sont des investisseurs. Même si la rentabilité est faible, c'est pas grave. On sait tous que la terre, c'est une valeur refuge. Ça n'a jamais baissé le prix de la terre. Vous n'allez pas me dire le contraire. Et donc, il y a encore des jeunes sur le territoire qui ont envie de faire ce métier-là, qui auraient des projets, des beaux projets. Mais la rentabilité avec le coût du foncier, ou même le coût de la reprise des outils de production aussi, hein, on peut parler des bâtiments d'élevage, ces choses-là, eh bien, c'est impossible. C'est impossible parce que les jeunes, ils ont une bonne formation, hein, ils savent compter. Quand on les met en face des chiffres, ben, ils se disent non. Ils ont aussi envie d'une qualité de vie, ils veulent vivre comme tout le monde. Donc on est dans une espèce d'équation impossible en ce moment-là. Impossible. À un moment où il y a un enjeu de renouvellement énorme, et pour moi, j'ai l'impression qu'on est déjà dans les choux. Là. On passe à côté de quelque chose. On a 10 ans de retard sur cette chose-là, par rapport à un enjeu énorme de renouvellement de génération. Alors je peux être pessimiste, mais c'est ce qui se passe sur notre territoire, où on est, sur le sud de Vienne. Hein. On avait, oui, par rapport justement, il y a eu quelques actions et tout. On a eu l'occasion de rencontrer plusieurs notaires à la Chambre des notaires à la suite de ça. Et là, oui, il y a deux agricultures. Aujourd'hui, il y en a qui le disent ouvertement, il y a deux agricultures qui se mettent en place. Mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait une qui reste. Hein. Moi, j'ai bien peur que... Je suis très inquiet, très inquiet. Et j'ai presque l'impression que la société se voile la face. J'ai l'impression que la société se voile la face par rapport à ce qui se passe dans les campagnes. Il y a une attente de la société de relocalisation des produits, relocalisation de la production pour consommer. Moi, j'ai vu, on a essayé désespérément avec le CHU de Poitiers de faire consommer de la viande du département. On a réussi à faire un repas et tout. Après, on nous a donné le cahier des charges pour y avoir accès, même un groupement de producteurs. Le cahier des charges pour avoir accès pour la viande, pour le CHU, c'est un dictionnaire, carrément. Ça va, c'est les grosses entreprises comme Bigard qui mettent 3 juristes dessus et qui vont réussir à répondre au cahier des charges. Quoi. Alors, on est compte, on n'est même pas capable, au niveau local, sur des structures où on pourrait justement passer la production locale, de faire les choses. Alors, on a toutes les belles paroles politiques, on a plein de choses. Plein de belles paroles partout. Et puis, dans les campagnes, je vous garantis que c'est pas la même musique. Mais on a vraiment le sentiment que la société se voile la face par rapport à tout ça. Qu'ils seront... Ouais. Ou je pense qu'ils se réveilleront, ce sera trop tard. Quoi. C'est le... Voilà, c'était... Désolé d'avoir débordé de la présentation de la ferme Saint-Vite, où on a été... Non, mais on en a parlé ce week-end, on a dit c'est fabuleux. Tout le monde nous aime, on est tout beau pendant 2 jours. Mais dans l'arrière-cuisine, personne ne vient voir ce qui se passe. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Merci pour votre témoignage, monsieur Caille. Eh bien, justement, peut-être que l'an prochain, c'est quoi le rendez-vous? C'est quand?
C'est 9-10 septembre. Et c'est, on mettra en avant le. Novembre, excuse-moi. Oui. Ouais, c'est le. Et on fonctionne sous 5-6 pôles, les ovins, les charolais, les limousins, les ovins, je dis, les équins, le pôle avicole. Et l'année prochaine, ce sera les chevaux qui seront à l'honneur. Les chevaux, mais chevaux sur toutes les formes de travail du cheval. Voilà.
Donc 9-10 novembre.
Oui, voilà.
Okay. Au parc des expositions.
Merci à vous.
Mais peut-être faut-il mais vous des ateliers
si
aussi
vous avez des questions.
De réflexion sur les questions que vous soulevez.
Ah si, il y a une chose que je posais. On fait une ferme pédagogique. On y a tenu ça dès le début, à faire venir les enfants de Poitiers, de Grand Poitiers. Parce que moi, je fais les fermes ouvertes et je faisais venir des écoles, des couronneries à la maison. Et quand je voyais le décalage, là aussi, le décalage invraisemblable. Et donc, cette année, on a fait revenir. On avait commencé la première année, on avait envoyé le mail aux écoles. Ça a répondu aussitôt. Cette année, quand on envoie le mail, les écoles répondent présentes. Tous les enseignants et enseignantes qui viennent reviennent sans problème. Et moi, j'étais encore là et tout. C'est affolant, quoi. Moi, je l'ai encore eu. le gamin qui vient devant la vache, c'est quoi comme chèvre, voilà le truc. Oui. On a même eu, j'ai même eu mon pote qui s'appelle comme moi, qui trayait la vache devant. Et puis là, c'est une adulte qui lui a dit, parce qu'il avait fini de traire la vache. Et puis, celle-là, il faut que je vous raconte, parce qu'elle est bonne. Il avait fini de traire la vache, les gamins ne pouvaient plus voir comment ça se passait. Donc, il enlève la trayeuse. Et puis, la personne lui dit, bah, vous ne pouvez pas traire à la main pour voir. Bah, il dit, non, j'ai fini de la traire, il n'y en a plus. Et puis, elle lui a dit, bah, faut en remettre dedans. C'est... voilà. Non, mais ça, c'est une anecdote. Mais c'est pour vous dire qu'on part de très loin et qu'il y a, en peu de temps, il s'est fait une véritable rupture. Donc voilà, la ferme Saint-Vite, c'est vraiment recréer du lien entre tout ça, parce qu'on est sur un tout petit territoire. Moi, je suis à 15 km de là. Et on est nombreux à être pas loin du tout. C'est vraiment le but de la ferme Saint-Vite.
Parfait.
Ce ne sera jamais une foire expo, tant que ce sera nous qui la piloterons.
Voilà, j'invite Monsieur de la Forcade à passer à la tribune, mais il y a une question.
Non, c'est pas une question, mais ça rentre pleinement dans la démarche de la protection de la ressource en eau. Aujourd'hui, la démarche qui est initiée, c'est de justement faire intervenir, que ce soit Terre de Liens ou des autres, faire intervenir des acteurs pour la maîtrise du foncier, pour justement, enfin dans l'opération que j'ai en tête, pour justement permettre l'installation d'éleveurs qui vont maintenir la prairie dans le bas des vallées pour justement ce filtre de vis-à-vis de l'eau. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, est appelé à se développer pour sortir cette contrainte foncière du maintien de l'éleveur.
On s'était invité, parce que c'est vrai, on a tendance à s'inviter où on n'est pas invité, et à une réunion du captage de Fleury avec la mairie de Poitiers et tout, pour justement, par rapport, il y a eu le déclassement des zones défavorisées par rapport à les CHN et tout. C'est fou, on a l'impression que tout va à l'inverse de ce qu'il faudrait, quoi. Parce que, absolument, hein, je pense que s'il y a eu un travail de maintien des prairies sur toutes ces zones-là, on serait un petit peu moins à la ramasse aujourd'hui. Il n'y aurait pas besoin de. Aujourd'hui, il va falloir remettre. Si on veut refaire la même chose, il va falloir remettre des moyens, beaucoup plus de moyens que si ça avait été juste maintenu, quoi. Et les éleveurs qui se sont maintenus dans ces périmètres-là de captage, ils ont l'impression d'avoir. Parce qu'eux ont fait l'effort de maintenir des prairies où ils ont maintenu l'élevage, et puis il n'y a eu aucune reconnaissance par rapport à ça. Et ça, il le regrette. Je peux vous dire, je connais bien les éleveurs qui sont sur ces périmètres-là. Ils regrettent vraiment qu'il n'y ait eu aucune reconnaissance par rapport à ça. C'est sûr.
Bien, dernière question.
Non, c'est juste une remarque. Enfin, c'est assez symptomatique, votre intervention. On voit bien que le monde de l'élevage est vraiment, vraiment en crise et qu'il y a besoin d'une reconnaissance. Et la ferme Saint-Vite, je pense qu'effectivement, c'est un des moyens où, voilà, vous l'avez dit, on se sent bien, on a l'impression que voilà, on a une certaine reconnaissance. Et j'ai envie de dire, il faut absolument que ça aille plus loin que ça. Il faut qu'on travaille sur les outils avec des collectivités locales, avec les. Et il faut aller plus loin que ça, parce que ça, c'est la vitrine. Mais derrière, il faut que ça se concrétise en projet sur le territoire. Les plans alimentaires territoriaux, c'est une première marche qui peuvent aller dans ce sens-là. Et le lien avec le consommateur, il est indispensable, c'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas faire reposer sur le seul agriculteur le poids des transitions, des changements qui sont nécessaires. Il faut que l'ensemble des citoyens aille dans ce sens-là. Et nous, c'est ce sur quoi on travaille. Et c'est pour ça qu'on s'appelle comme ça, Initiative pour une agriculture citoyenne territoriale, parce que ça fait 15 ans ou 20 ans qu'on sait qu'il faut que le monde agricole évolue avec la société et qu'on ne peut pas rester dans une déconnexion. Ça ne fonctionne pas.
Voilà. Les savoir-faire des éleveurs, quand ils seront perdus, ils seront perdus. On ne devient pas éleveur comme ça. C'est une passion. C'est une passion et un savoir-faire. Et non, ça, et quand c'est perdu, c'est perdu, ces choses-là.
Bien, merci, Monsieur Caille, de votre témoignage. Oui. Donc, Monsieur de la Forcade, qui est vice-président du syndicat de la propriété rurale des Deux-Sèvres, aussi un acteur. On n'a pas rassemblé tous les acteurs. On a essayé d'en mobiliser le plus possible. Mais comme je l'ai dit, c'est une première approche. Alors, à vous.
Merci. Alors, vous me laissez combien de temps ?
10 minutes, 20 minutes, un quart d'heure.
Bon, ouais, ça ira. Donc, je me présente négativement, j'allais dire. Je ne suis pas universitaire. Je ne suis pas juriste. Je ne suis pas un professionnel de l'agriculture. Et cependant, je vais vous parler de la propriété privée rurale. Pourquoi ? Parce que les hasards de la vie ont fait que je suis devenu un petit propriétaire il y a 50 ans. Et que depuis 50 ans, donc je m'intéresse à la propriété privée rurale. Je distinguerai trois types de propriétaires. L'héritier, comme je suis, vous l'avez compris, le propriétaire exploitant et le propriétaire exploitant retraité. Alors, bien entendu, c'est très schématique et il y a des passerelles entre ces trois catégories, puisque aujourd'hui, la plupart, si ce n'est la totalité des propriétaires exploitants, sont en même temps propriétaires, en même temps fermiers, en même temps bailleurs, et parce que pour agrandir leur exploitation, parce qu'ils ont hérité, parce que ci, parce que ça. Mais je me limite à ces trois catégories pour schématiser, et je m'intéresserai surtout aux héritiers et aux propriétaires exploitants retraités. La propriété. La propriété, le droit de propriété est inscrit dans la Constitution. Sur le fronton de nos établissements publics, il y a marqué « liberté, égalité, fraternité ». Or, le droit de propriété et la liberté des propriétaires sont légalement encadrés de manière abusive, à mon sens. Comment ? Essentiellement par deux intermédiaires. Le code rural. Le code rural, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même un bouquin qui fait 3000 pages et qui est tout à fait différent du code civil que nous appliquons tous les jours dans notre vie courante. C'est un monde à part. 3000 pages. 3000 pages qui a été initié, enfin, ou du moins le statut du fermage, puisque c'est surtout ça qui nous intéresse, il y a 70 ans. Or, le monde a changé depuis 70 ans. Le deuxième intermédiaire, qui a déjà été évoqué tout à l'heure, c'est la SAFER. La SAFER, j'y reviendrai, c'est pas 70 ans, c'est 50 ans. Là aussi, depuis 50 ans, il y a pas mal de choses qui ont bougé. Alors, qu'est-ce qui en résulte ? C'est qu'un propriétaire n'est pas libre de choisir son locataire. Il n'est pas libre de choisir la durée du bail. Il n'est pas libre de fixer le loyer des terres. Il n'est pas libre de fixer le loyer des bâtiments agricoles. Il n'est pas libre de fixer le loyer de la maison d'habitation. Tout ça, c'est encadré. C'est encadré par des indicateurs nationaux ou par des arrêtés préfectoraux qui fixent tous les ans l'évolution de ces indices et, comme par hasard, l'évolution de l'indice est toujours, depuis 50 ans que je m'en occupe, toujours inférieure à l'augmentation en pourcentage, des impôts fonciers. Alors, devant cette restriction de liberté, le propriétaire peut tenter de vendre. Eh bien, il n'est pas libre de vendre. Il n'est pas libre de vendre à qui il veut. La SAFER est là pour veiller. Il trouve un acheteur, il convient d'un prix. Le prix ne plaît pas à la SAFER. La vente est annulée. Le fermier a un droit de préemption. Bon, je dirais comme tous les locataires. Sauf que le droit de préemption s'étale sur toute sa famille. La SAFER, bien sûr, a un droit de préemption. Et ce qui est exorbitant, c'est qu'elle a un droit de préemption avec révision de prix. Ce que j'évoquais il y a un instant. C'est-à-dire que si le prix ne convient pas à la SAFER, elle dit j'achète au lieu de 10 000, j'achète à 5 000. Et si vous n'êtes pas content, ben c'est pareil, vous ne vendez pas. Et puis c'est tout. Et pourtant, les propriétaires finance la moitié, le budget, la moitié du budget des chambres d'agriculture, dans lesquelles ils ont droit à un siège sur 34. Pas 34 dans la nouvelle configuration. Les conséquences de tout ça, c'est que le propriétaire, je parle de l'héritier, dégoûté ou qui a envie, de placer son argent ailleurs, va essayer de vendre. Comme le fermier a le droit de préemption, le fermier, la plupart du temps, va acheter. Il s'endette. Il s'endette au grand bénéfice des banques et au détriment des investissements qu'il pourrait faire ailleurs. Car, ça a été évoqué par quelqu'un avant moi, les agriculteurs ont des besoins de financement énormes, pas seulement pour le foncier, mais également pour le cheptel animal ou pour le cheptel en matériel ou en bâtiment. Le propriétaire exploitant retraité, donc que j'ai évoqué tout à l'heure, très souvent a deux options. Il a travaillé la terre pendant 30 ans, 40 ans. Il n'a pas envie de la vendre. Alors il lui reste deux solutions. Il trouve un fermier. Mais il sait, lui, ce que sa terre rapporte. Et donc il lui impose, avec son consentement, un loyer des terres qui est supérieur au loyer fixé par arrêté préfectoral. Les deux, ils trouvent leur compte et ça passe comme ça, la plupart du temps. Mais c'est quand même un système aberrant. La deuxième solution, et qui est probablement la pire, c'est qu'il va conserver les terres, mais comme il est âgé et qu'il n'a plus envie d'aller dans les champs, il va faire le travail par entreprise. Et effectivement, les entreprises ont un potentiel de développement assez important par ce biais-là. Mais, vous me direz, on s'en fout, c'est pas notre problème. Ben si, c'est un peu notre problème, parce que qui dit entreprise dit, la plupart du temps, je viens d'une région bocagère, je viens de la Gâtine, terre d'élevage. Entreprise, c'est essentiellement la culture. Donc, disparition de l'élevage, donc disparition des prairies, donc disparition des haies, donc disparition du bocage, donc atteinte à l'environnement et à la biodiversité. Et, notamment, désertification des campagnes. Donc c'est pas indifférent pour nous tous, citoyens. Et c'est quand même, c'est une évolution qui résulte du fait que depuis 70 ans, beaucoup d'exploitants ont acheté des terres et puis ils sont arrivés ou ils arrivent à l'âge de la retraite et ils sont de plus en plus nombreux. Donc ma conclusion de ces réflexions, c'est que, je l'ai déjà dit, et je ne suis pas le seul, en 70 ans, le monde agricole, ou le monde rural, a profondément changé. Qu'il y a des besoins en capitaux pour le foncier, pour les bâtiments, pour le matériel, pour le cheptel. Il devient donc urgent, et là, devant vous, c'est le propriétaire qui parle, mais j'en parlais hier avec des fermiers, qui étaient exactement de mon avis. Il devient urgent de revoir le statut du fermage, qui date de 70 ans, encore une fois. De revoir le droit de préemption avec révision de prix qui est accordé à SAFER. Il devient urgent de libérer les initiatives pour faire vivre le monde rural. Merci de votre attention.
Merci, monsieur de Lafourcade. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? C'est un point de vue d'un syndicat. Chacun a son point de vue. C'est l'idée de brasser des points de vue différents. Allez-y.
C'est tout le problème de la régulation du foncier et de réinstaller. Et c'est l'enjeu. Il y a des enjeux financiers derrière importants. Et l'accès, c'est le problème de la. On l'a évoqué tout à l'heure. La notion de patrimoine et puis la notion de rentabilité agricole, c'est complètement déconnecté. La valeur patrimoniale et la valeur de la rentabilité, la valeur économique, c'est complètement déconnecté l'un de l'autre. Donc, est-ce qu'il y a une équation possible? Le statut du fermage, qu'il faille toiletter le statut du fermage, je suis complètement d'accord. On est nombreux à être d'accord sur ça. Ce système de fermage, une fois qu'un bail est signé, ça, comme vous dites, ça se transmet indéfiniment et tout, et y compris quand le fermier n'est pas toujours très très réglo. Et c'est sûr qu'il y a des choses à toiletter. Mais après, l'agriculture, c'est quelque chose qui tourne lentement. Tout tourne lentement. On a besoin de sécurité, de stabilité. Ça, c'est les propriétaires doivent l'entendre. Quand on monte, si on monte des bâtiments, encore plus en élevage, si on monte des bâtiments d'élevage, on a des installations et tout, on peut pas être sur des en se disant, bah, tiens, dans 2 ans ou dans 3 ans, peut-être que j'aurai plus le foncier. On a besoin d'une sécurité, on a besoin d'une sécurité, d'une stabilité sur le foncier. Dans la mesure où tout le monde, où le propriétaire y trouve son compte et le fermier y trouve son compte. Moi, je me suis installé avec un bail long terme à 18 ans et c'était très bien. Et heureusement que j'ai eu ça pour débuter, pour m'installer.
Oui. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Un exploitant a besoin de stabilité. Mais il y a, comment dire, pas une contradiction, mais si, une contradiction qui, à mon avis, se fait de plus en plus prégnante. C'est que, on l'a dit, je l'ai dit, mais je ne suis pas le seul, l'agriculture a besoin de capitaux, a besoin d'investisseurs. Donc là, je déborde le cadre du propriétaire héritier ou pas héritier. Il faut aller chercher des capitaux ailleurs. Or, un investisseur, il a peut-être besoin de stabilité, mais il a besoin de disponibilité de son capital. Et là, il y a une contradiction que je ne sais pas résoudre, mais qui m'apparaît de plus en plus flagrante et pour laquelle je pense qu'il faut chercher des solutions.
On l'avait évoqué quand on avait rencontré les notaires, de la même façon qu'il s'est fait des SAS pour des bâtiments photovoltaïques où des banques ont levé des capitaux et tout, où ça tournerait. Mais est-ce que pour le foncier, il n'aurait pas fallu faire des choses de ce genre-là, avec du foncier qui se libère et pour le mettre à disposition de jeunes et faire des baux ruraux, et que les capitaux, justement, pourraient se libérer, que les capitaux se libèrent et soient remplacés par d'autres, qu'il y ait une sorte de turnover sur les capitaux, pour éviter que les capitaux des propriétaires soient bloqués. Je pense qu'il y a des choses à imaginer dans ce domaine-là.
Je m'adresse à ceux qui connaissent peut-être un peu moyen, mais le bail le plus court, qui assure à la fin du bail la disponibilité du capital à son propriétaire, c'est 25 ans. 25 ans. C'est le plus court. Tous les baux d'une durée inférieure peuvent être prolongés automatiquement par le fermier en place. Donc ça peut durer 150 ans. Donc quand je dis qu'un investisseur a besoin de la disponibilité de son capital, il y a une contradiction énorme. Et que je dis encore une fois, je ne sais pas la résoudre. Mais je pense qu'il faut y réfléchir et chercher des solutions. Et
il faut savoir que dans le sud de la France, Sud-Nouvelle-Aquitaine, on va dire, il y a des coopératives aujourd'hui qui deviennent propriétaires de fonciers. Et donc, voilà. Mais pour abonder ce que vous dites, alors c'est vrai que nous, aujourd'hui, on est en tant qu'entrepreneurs, on est très sollicités à la prestation de services pour du travail à façon, ce qu'on appelle le travail de A à Z. C'est-à-dire que le propriétaire ne veut pas louer, ne veut pas vendre, veut garder son patrimoine parce que X ou Y, il a la retraite, ou alors ce sont des jeunes qui ont hérité, qui sont actifs, qui sont à Paris ou ailleurs, mais qui veulent garder leur patrimoine, ils font faire leur terre de A à Z, à nous-mêmes. Pendant longtemps, on s'est fait tirer à boulet rouge parce que par la profession agricole, parce que on nous accusait d'être des anti-installateurs de jeunes. Mais il faut bien savoir que ce qu'on nous a demandé à la profession, c'est le propriétaire qui nous l'a demandé. c'est pas nous qui avons été vers le propriétaire pour lui dire faites-nous faire tes terrafaçons. Et vous avez levé un problème, enfin, on en a parlé avec Michel ce midi. Je pense que le problème aujourd'hui, pour résoudre le problème de l'installation et résoudre peut-être aussi le problème, on va dire, de liberté ou de confort du propriétaire, c'est de revoir les statuts du fermage qui aujourd'hui sont carrément à l'ouest de la réalité aujourd'hui. Et je pense que ça pourrait résoudre plein de problèmes. Et je rebondirai sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur quelques aberrations où aujourd'hui la réglementation va à l'inverse de ce que l'agriculture voudrait. Mais malheureusement, pour en témoigner, il faut savoir qu'en haut lieu, on a quand même des services d'État qui sont là pour prendre des décisions et pour mettre en application. Mais malheureusement, c'est qu'on a affaire à des services d'État et des hauts fonctionnaires qui ne connaissent pas le problème de fond, le problème de terrain. Ce sont des gens qui travaillent, qui gèrent des dossiers, qui mettent en application des choses par rapport à une règle politique qu'on leur a donnée, mais sans connaître le bien fondé des choses. Je vais vous donner un seul petit exemple, encore une petite caricature. Au ministère de l'Agriculture, j'y suis allé, c'était sur la fin du temps de Le Foll, on rencontre sa numéro 2 ou sa numéro 3, je crois, numéro 2, Le Foll, pour divers problèmes. Entre autres, le problème de l'emploi dans le monde agricole et entre autres nous, de l'emploi dans les ETA, par rapport à la TODE, que tu dois savoir de quoi je parle. Et donc, on évoque le problème, comme ça, et leur axe politique, c'était de dire, mais de toute façon, il faut que vous embauchiez. Enfin, voilà, eux, ils veulent développer de l'emploi. OK, on est tous d'accord. Et on lui disait que nous, dans notre profession, on avait beaucoup d'emplois saisonniers, de par l'activité qui était très saisonnière, donc ça veut dire tout l'été, allez, on va dire du printemps à l'automne, c'est très saisonnier. Et on lui disait qu'employé, on ne peut pas, emploi plein temps, c'est compliqué de faire que de l'emploi plein temps. Et elle nous disait, mais, et je vous jure, sur la tête de mes enfants, textuellement, elle lui dit, mais vous n'avez qu'à prendre des emplois plein temps et vous laissez le travail sur l'année, comme ça. Je vous jure. Et on a affaire quand même, on a affaire à des gens, des hauts fonctionnaires du ministère, juste pour vous faire comprendre. Donc je lui ai expliqué que le monde agricole, d'abord je lui ai demandé, je lui ai dit quand même qu'elle travaillait dans le ministère de l'Agriculture, je lui ai demandé si elle savait où elle travaillait, et que l'agriculture c'était deux choses. Un aspect climatique, l'autre un aspect végétatif. Et donc la moisson qui se fait au mois de juillet ne peut pas se faire au mois de janvier ni au mois de novembre. Voilà un exemple. Et à un moment donné, elle a fini par comprendre qu'elle avait dit une aberration, quoi. Mais on était au ministère de la Culture. Donc ce sont ces gens-là, à un moment donné, qui prennent des décisions. Pour revenir à tes propos, ça veut dire qu'à un moment donné, ben, il y a des choses qui se décident sans prendre connaissance de, réellement des problèmes de terrain. Voilà.
J'ajoute, parce qu'on ne fait qu'effleurer un peu les questions, effectivement, mais sur ce problème des droits de propriété, il y a un ingénieur agronome qui a beaucoup travaillé sur la question, Henri Olagnon. Et je pense qu'il y a des choses à regarder. Puis il y a aussi, on voulait les faire venir à un moment donné, dans le Pays Basque, ce qu'on appelle les communautés syndicales, qui n'ont rien à voir avec des syndicats d'élus. C'est des gestions de communs des pâturages. Et ça, c'est assez intéressant à interroger, je pense, dans le fonctionnement. Voilà. Il y a des pistes comme ça. Et c'est des confrontations comme ça qu'il faut qu'on organise peut-être à venir. Voilà. En tous les cas, merci, monsieur Lafourcade. Et je demanderai donc à madame Cyr de venir prendre la place. Oui, une remarque peut-être.
Oui, merci. Bon, une toute petite précision. À la Chambre d'agriculture, nous avons essayé de modifier un petit peu les fermages, parce qu'on a des lois entièrement d'accord qui datent de 70 ans, des contraintes qui sont complètement ridicules. On a créé une commission à la Chambre d'agriculture. Ça a été porté au ministère de l'Agriculture. Et on ne touchait à rien. Voilà la réponse. Alors, mais des choses complètement différentes. Merci.
Merci du témoignage. Madame Cyr, à vous. Je vous laisse vous présenter.
Bonjour à tous. Je suis Françoise Cyr. Je suis la directrice de l'association Promet en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, bah, je représente, je porte la parole de mes administrateurs et de nos adhérents. J'espère que mon intervention va permettre d'approfondir la prise en compte de l'environnement
sur les espaces ruraux et comment cette prise en compte est assurée par les agriculteurs. Donc très rapidement... Alors je ne sais pas, faut que je le... Oui, mais je dirige vers où, là, le truc ? Là-haut ? Non ? Oui, bien. Voilà. Donc, promet... OK, mais on ne le dirige pas... Non ? D'accord. Donc, promet en Nouvelle-Aquitaine... qui existe depuis une trentaine d'années et qui a été créé sur l'ex-territoire du Poitou-Charentes. Notre slogan actuellement, c'est « Ensemble, agissons pour la haie et l'arbre champêtre ». Cet ensemble veut recouvrir à la fois les usagers que nous sommes tous, que l'ensemble de la société est par rapport aux fonctions qui sont assurées par ces arbres et ces haies, et ensemble, donc, avec les gestionnaires, ceux qui conservent, qui entretiennent, qui valorisent donc ces structures arborées, que sont essentiellement les agriculteurs, les collectivités et des habitants des territoires ruraux. Nous sommes fiers d'avoir accompagné la plantation de 1 700 000 arbres. Nous sommes fiers aussi de présider le réseau des opérateurs de la haie au niveau national. Et nous récoltons et nous plantons végétal local, j'y viendrai rapidement, et nous bénéficions du soutien de la Nouvelle-Aquitaine. Planter, ce que vous allez voir, c'est plus facile de mobiliser des fonds pour planter plutôt que pour conserver et entretenir correctement. Donc on plante dans des dispositifs des agences de l'eau de la région et on mobilise du mécénat pour des plantations. Et donc nos activités... mobiliser, promouvoir. On va dans les lycées agricoles, ça, c'est important pour nous. Tous les ans, donc, on accompagne environ 200 porteurs de projets de plantation et il y en a plus de la moitié qui sont des agriculteurs, l'autre moitié étant représentée par des collectivités. Ensuite, donc, on réalise des études techniques, donc les plans de gestion de haies chez les agriculteurs, donc un outil dont on entend parler depuis des années qui évolue et au gré des dispositifs financiers qui sont mis en place. Ce que l'on réalise actuellement, ce sont donc des inventaires participatifs du réseau de haies avec les habitants. Et puis, quelque chose aussi pour nous qui était intéressant, qui continue, c'est l'inventaire des espèces fruitières locales. Donc, quand on parle d'un patrimoine du territoire, de biodiversité domestique, on est complètement dedans. Et puis, donc, nous conduisons des expérimentations techniques. J'ai évoqué donc, le plan d'origine locale autour des protections fait des plantations. Et la pression gibier, chevreuil, lièvre, sanglier est quelque chose qui devient un véritable problème sur de nombreuses plantations. Donc, voir comment on peut trouver une solution. Voilà. Alors là, c'était juste pour illustrer comme nous sommes dans la Vienne. Sur cette carte-là, donc toutes les communes qui sont colorées, il y a au moins une plantation promet qui est dessus. Et tous les ans, je demande à mes collègues techniciens de me colorier des nouvelles communes. Voilà. Donc ce qu'on a fait sur la Vienne, donc ça c'est la saison passée, on a planté 137 km de haies, 15 l'hiver dernier. On a fait 10 inventaires participatifs. Et les bourses aux arbres, donc, qui étaient liées, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les aménagements fonciers suite à la LGV. Donc sur le département de la Vienne, il y a eu mise en place des bourses aux arbres. Pour permettre dans les aménagements fonciers consécutifs au passage de la ligne, de conserver un maximum de haies. Alors à la base, l'entrée, c'était vraiment environnement, paysage. Et il a fallu trouver une façon... Parce que les haies, alors je parle sous votre couvert, hein, donc les haies, elles appartiennent aux propriétaires de la parcelle qui la porte. Elles n'ont pas d'existence cadastrale. Et dans le calcul des points attribués aux parcelles, jusqu'à présent, la haie ne compte pas. Jusqu'à présent, hein, on est bien d'accord, la haie n'a pas de valeur. Donc là, on a essayé de donner une valeur à cette haie pour en conserver et qu'à l'arrivée, les propriétaires retrouvent, quand on voyait vos cartes de regroupement des parcelles, retrouvent leur patrimoine haie. Et c'était aussi pour éviter ce que l'on constatait, notamment alors dans l'époque des remembrements, c'est que quand un remembrement se mettait en place, on entendait les tronçonneuses à tour de bras, alors que l'arrêté préfectoral, normalement, interdisait ce genre d'activité. Donc voilà, donc les bourses aux arbres, quelque chose qui a été intéressant et qui a permis donc de maintenir un certain nombre de haies sur le territoire. Alors, j'avance dans le mauvais sens. Voilà. Alors, des mots-clés pour Promé par rapport à CS et structures arborées, c'est donc la multifonctionnalité et la transversalité. Multifonctionnalité qu'on peut décliner sur les piliers du développement durable avec les fonctions agronomiques et économiques. Donc, c'est pareil, hein, je parle sous couvert de Monsieur Caillé. Donc, pour nous, en élevage, donc, il y a vraiment cet aspect brise-vent, préservation des parcelles, préservation aussi de la prairie. Et donc tous les aspects agronomiques sur les sols, la qualité de l'eau, production, donc bois de chauffage, le bois déchiqueté, le bois bûche, et puis donc les fonctions environnementales sur lesquelles on reviendra, donc par rapport à la préservation, la circulation de l'eau, des sols. On n'a pas évoqué encore jusqu'à présent, il me semble, le changement climatique. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer dans les réflexions et dans les évolutions, parce que là, je pense qu'on ne peut plus, nier qu'il se met en place et que ça va aller très vite. Et puis les aspects donc de biodiversité. Vous avez entendu, donc on n'a pas réussi à stopper l'érosion de la biodiversité. Vous avez entendu parler d'une étude qui a montré la régression, voire la disparition des oiseaux de plaine. Voilà. Et pourquoi transversalité ? C'est que pour nous, l'arbre et la haie, au vu de toutes ses fonctions, il permet vraiment de faire cette transversalité dans des dispositifs, des approches qui sont sectorisées. Voyez ? Donc on parle de la haie, on parle de l'eau, de la réduction des produits phytosanitaires. On parle de la haie, on parle trame verte, trame bleue, corridor écologique. On parle de la haie, on parle stockage du carbone, production de biomasse. Donc vraiment, pour nous, c'est important de dire qu'on fait de la transversalité quand on travaille sur cette question. Très rapidement, donc toujours pour du vocabulaire qui est récent, donc agroforesterie, agroécologie. Donc là, je me contente de dire que c'est vraiment d'utiliser l'arbre dans une vision agricole pour améliorer la production. En dessous, c'est juste une illustration pour montrer comment Promet présente la haie par l'entrée biodiversité et trame verte, les corridors écologiques, habitat notamment pour les auxiliaires des cultures dans le cadre de la lutte intégrée, le rôle dans le bien-être animal, brise-vent, ombrage, le rôle aussi dans la biodiversité végétale et puis alimentation donc de la faune. Hein. Donc voilà, juste pour illustrer cette entrée et biodiversité. Donc pour nous, il y a une diversité des structures arborées. Quand on parle de la haie qui va pouvoir être caractérisée par les arbres têtards. Arbres têtards, ça parle à tout le monde. Donc c'est ces arbres qu'on étête et donc où la productivité du bois est accélérée. Des haies de gâtine avec les pommiers qui sont taillés. Évidemment, quand on parle haie, on pense bocage. On pense prairie, on pense élevage. Et donc, des fois, on a un slogan un peu raccourci où on dit plus d'élevage, plus de bocage. Et quand il n'y a plus de bocage, qu'est-ce qui se passe ? Soit ce sont les grandes cultures qui avancent à partir des marges, soit si vous êtes vraiment dans des zones difficiles où il n'y a plus justement l'indemnité de handicap naturel, c'est de la friche qui s'installe dans les fonds de vallée, hein. Voilà. Donc pour nous, il y a vraiment une place pour la haie, l'arbre champêtre, dans tous les territoires et dans toutes les productions agricoles. Avec des productions agricoles où l'arbre a une position émergente, notamment dans le maraîchage, où avant c'était vraiment les arbres d'un côté et puis les légumes de l'autre, où maintenant on arrive donc, notamment par rapport à la prise en compte du changement climatique, à cultiver des légumes sous des rangées d'arbres. À diversifier les productions, notamment en plantant des arbres fruitiers. Voilà. Donc pour nous, vraiment, un arbre, tous les territoires et toutes les productions agricoles, production agricole aussi, je vous ai parlé maraîchage, aussi on travaille avec l'association Foie Gras du Périgord, donc pour mettre des arbres dans les parcours à volailles, pour inciter les canards à prospecter l'ensemble de la parcelle, avoir aussi une nourriture diversifiée et travailler aussi sur la gestion des effluents dans le parc à volailles. Et après, il y a des éleveurs qui vont plus loin, donc qui broient le bois et qui installent ces plaquettes à l'entrée des sorties des bâtiments d'élevage. Comme ça, ils ont quelque chose qui est toujours très propre. Voilà. Donc, pour nous aussi, ce qui est important, c'est d'envisager la prise en compte de l'arbre à l'échelle, alors je dis de l'exploitation ou de la ferme, et non plus à la parcelle. Si vous regardez les dispositifs d'aide à la plantation, c'est toujours à la parcelle. Pour nous, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir cette vision globale de l'arbre et d'avoir vraiment un atelier arbre à l'intérieur donc de l'exploitation ou de la ferme. Juste un éclairage, donc un nouveau métier. Donc là, quand on parlait d'innovation sur les territoires ruraux, donc technicien agroforestier. Donc la fiche de poste n'existe pas dans les registres de Pôle emploi. Personne pour le moment sort des écoles avec ce titre. Donc à Promé, nous sommes une douzaine de salariés et avec une équipe technique de 7 techniciens et techniciennes agroforestiers. Donc ils accompagnent les porteurs de projets de plantation, mais ils ne font pas que ça. Donc ils sont aussi là pour améliorer la prise en compte de l'existant, donc au travers de la conservation de pratiques respectueuses et de gestion durable, de régénération, de rénovation. Donc là, c'est juste pour illustrer un plan de gestion chez un agriculteur, un inventaire communal, tester des pratiques. La nature a horreur du vide, et planter, c'est simplement pour gagner du temps et avoir les arbres que l'on souhaite, mais des fois simplement d'arrêter de broyer, on peut avoir une haie qui repart. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre, le technicien agroforestier? Donc il expérimente. Donc voilà un test de gaine de protection biodégradable dans le cadre d'un aménagement foncier en Deux-Sèvres. On a testé la transplantation d'une haie dont la haute valeur environnementale, la richesse biologique avait été reconnue. Et à part la déplacer, il n'y avait pas d'autre solution parce qu'elle était vraiment sur l'emprise de la route qui allait être aménagée. Donc tout un itinéraire technique pour déplacer cette haie. Je vous ai évoqué tout à l'heure l'inventaire des espèces fruitières locales, donc vraiment qui associe les populations rurales, les communes rurales, donc pour faire passer le message, favoriser les échanges entre les agriculteurs, mais je pense que ça c'est quelque chose qu'on a dit tout au long de la journée, diffuser de l'information, donc la former à la taille. Et donc, toujours en lien avec le milieu rural, c'est-à-dire que l'association Promé, modestement, c'est une douzaine de personnes qui résident sur des communes rurales, qui ont des épouses ou des maris qui ont aussi un emploi sur ces communes et qui ont des enfants qui vont dans les écoles de ces territoires. Quelques pistes très rapidement pour valoriser cette prise en compte de l'arbre et de la haie au niveau de la ferme, de l'exploitation. Donc cette vision globale qui passe par la réalisation d'un plan de gestion. Donc on inventorie le patrimoine arboré avec l'agriculteur. On fait le point sur ses pratiques, sur ses attentes, sur ses objectifs, avant de mettre en place donc un plan où on va mettre les cycles d'exploitation pour bûcher le bois, les tailles des replantations, revaloriser la haie, donc c'est ce que je viens de dire, pour lui donner une dimension économique, et surtout ne pas opposer approche économique et approche environnementale. On est pour l'exploitation durable du bois énergie. Donc là, nous sommes dans un territoire où le maillage bocager n'est pas suffisamment dense pour intéresser de grosses entreprises qui font du bois énergie sous forme de plaquettes. Actuellement, donc, mes homologues bretons et Normand travaillent sur un label bois bocage géré durablement afin donc de maîtriser cette exploitation qui peut être très violente sur un territoire et de travailler aussi sur l'approvisionnement des chaudières à plaquettes dans, les, dans, dans ces communes. Hein. Donc un gros travail qui avance. Il y avait une réunion la semaine dernière pour vraiment mobiliser l'ADEME sur cette question de bois bocager et de ne pas être dans une vision à court terme de pillage de la ressource. D'autres choses qui sont expérimentées, enfin qui marchent maintenant, donc pour l'élevage, remplacer ou compléter la litière avec de la plaquette broyée. INRA de Venours, donc chez nous à Lusignan, participe à une grosse étude conduite par l'INRA autour de la production de lait et qui, avec qui on plante des arbres pour exploiter la, la ressource ligneuse, la végétation ligneuse en période de disette, notamment l'été. Donc, alors, on a fait différentes installations. Donc, je vous fais voir les petits têtards. Donc, à l'origine, les têtards, on les faisait à 2 mètres pour pas que les animaux broutent les rejets. Donc là, on fait des têtards qui font 80 cm de haut, justement, pour qu'après, les animaux puissent brouter dessus. Des systèmes aussi de lianes. Alors après, moi, je ne suis pas spécialiste, donc a priori, les vaches aiment bien manger de la vigne, je pense. Ouais, voilà. Donc, c'est, voilà. Donc là, ça s'appelle des... Donc on, nous avons les tables et nous avons aussi les murs, donc avec de la vigne... de la vigne qui grimpe. Ensuite, donc ça, je ne pense pas que je vais avoir le temps de vous en parler. Hop. Donc, AFAC Agroforesterie, pour nous, une grosse fierté. Ça veut dire que ce réseau, dans sa diversité, parce que, vous voyez, on y retrouve des organismes qui travaillent sur la haie champêtre, comme promet. On y retrouve des organismes professionnels agricoles, chambres, CUMA, le secteur de l'enseignement de la recherche, donc les entreprises, les agriculteurs, les fédés de chasse, des associations environnementales. Ça veut dire qu'à travers ce réseau, on arrive à fédérer autour de l'arbre, pour faire avancer la question de l'arbre, des structures et des personnes qui peuvent avoir des points de vue divergents sur d'autres questions. Donc pour nous, ça c'est quelque chose de très important qui nous permet... à la fois d'aller interpeller le ministère de l'Agriculture et interpeller le ministère de l'Environnement. J'en profite pour vous informer que le 21, 22, 23 novembre, le réseau AFAC Agroforesterie organise donc les rencontres nationales de la haie sur le thème « Ressources en eau, ressources bocagères » donc qui se tiendront à Lagnon, dans les Côtes d'Armor, donc avec le soutien de la région Bretagne et en partenariat avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, le soutien des ministères, ainsi que celui de l'Agence française de la biodiversité. Voilà. Donc, là, ça, je l'ai fait un petit peu à la hussarde, mais l'objectif, c'était vraiment de montrer que les haies, les arbres des champs, elles apportent une réponse pour des questions qui sont posées depuis un certain temps et qui se posent de plus en plus au pouvoir public, aux collectivités, qualité, circulation de l'eau, donc du bassin versant jusqu'au périmètre de captage, donc ça a été évoqué aujourd'hui, par rapport à la prise en compte du changement climatique, je vous ai évoqué le bois énergie, les pompes à carbone, donc stockage du carbone, notamment au niveau du système racinaire dans le sol. Donc quand on voit ça, on se dit « waouh, super !» Et alors, pourquoi il n'y a pas plus de reconnaissance des arbres? Donc, elle est encore supposée incompatible avec l'agriculture moderne. Donc, il y a les aménagements fonciers. Dans la PAC n'a pas arrangé les choses pour l'arbre et la haie. Il y a souvent cette opposition entre les surfaces de production et les surfaces écologiques. La haie n'a pas d'existence cadastrale. Elle est majoritairement sur propriété privée. Et il y a aussi une multiplicité des propriétaires et des gestionnaires, privés, agriculteurs ou non, de l'État à la commune. La diversité des implantations à l'intérieur des parcelles, autour des parcelles, en bordure de voirie, au bord des cours d'eau, elle peut être mitoyenne. Donc toutes ces choses-là donc, qui complexifient quand même sa prise en compte. Donc, que faire, hein, juste des pistes. Donc c'est important de connaître son patrimoine, qu'il soit privé ou public, connaître les outils réglementaires. Pour nous, c'est important aussi que les collectivités montrent l'exemple et s'engagent. Et on a vu que c'était possible, hein, dans différents dispositifs. Anticiper les destructions par le préverdissement, la transplantation. Veiller donc aux continuités de la trame verte, les corridors écologiques entre les zones rurales et puis les villes. Et pour nous, ce qui est important aussi, c'est dialoguer, informer, donc associer les gestionnaires, les usagers. Donc vraiment être dans la concertation. Voilà. Et alors, j'avais mis une diapo, mais qui me tenait à cœur, mais bon, elle a disparu. Voilà. Donc, je suis à votre disposition pour les questions. Alors, on n'a pas franchement fait le lien avec le foncier. Ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'au niveau national, pour une moyenne vraiment, on estime donc que les haies occupent moins de 1,6% de la SAU, de la surface agricole. Voilà, bon, c'est variable, bien évidemment. Donc par rapport aux services rendus, il y a quand même de quoi faire.
Merci, François Cyr. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui.
Bon, c'est pas une question, c'est une anecdote pour aller dans votre sens. Vous dites que la haie n'a pas d'existence cadastrale. Et il y a 50 ans, quand j'ai commencé à m'occuper de propriété, je suis allé voir un ancien et je lui ai dit, écoutez, la haie qui sépare ma propriété de celle du voisin, elle est à qui? Où est-ce que je peux trouver à qui elle appartient? Et il m'a répondu avec l'accent du pays, oh, il ne sait pas à qui qu'elle est, mais il sait bien qui la bûche. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ne bûchent plus les...
Oui. Alors, l'entretien à la machine dépend beaucoup aussi de la façon dont c'est réalisé. Par rapport à l'entretien des haies aussi, il faut bien voir que dans le cadre du verdissement de la PAC, on oblige les agriculteurs à garder les haies. On leur interdit d'entretenir les haies pour la prise en compte de la biodiversité et de la nidification, il me semble, du 1er avril au 30 août. Un mois après, c'est quelque chose comme ça. Juillet, ouais. Des habitants nous interpellent, nous disent la commune est en train de couper les haies. Donc c'est-à-dire que il y a des obligations sur les agriculteurs que n'ont pas les communes. Quand on se retourne vers la commune pour lui dire mais vous savez là entretenir la haie en ce moment c'est pas le bon moment, la réponse qu'on nous fait c'est j'ai du personnel donc faut que je l'utilise. Et maintenant, j'ai un broyeur pour toute la communauté de communes. Donc, si je veux passer partout, je suis obligée d'en faire sur ces périodes-là aussi. Et puis, c'est variable en fonction des territoires. Hein. Je n'ai pas dit que tout est comme agissait de la sorte.
Oui.
Avec la carte opaque. Alors, une anecdote par rapport à ce qui se passe justement en Bretagne. La haie est protégée, mais pas l'alignement d'arbres. Donc un alignement, c'est quand vous avez par exemple des chênes espacés de tous les 10 mètres. Et donc ce qui se passe en Normandie, comme les alignements ne sont pas protégés, il suffit de détruire la strate basse de la haie, les buissons, pour se retrouver à un alignement et dans ce cas-là, pouvoir l'évacuer.
Au niveau de l'association, est-ce que vous avez des actions de médiation envers les scolaires ou
Alors, donc, nous avons un animateur nature et tous les hivers, nous accompagnons environ 2000 élèves dans les gestes de la plantation. Et on essaie toujours de le faire dans une démarche positive et non pas dans la démarche où nos enfants doivent réparer nos erreurs. Voilà, donc on le fait vraiment dans cette démarche positive. Et pour nous, même, amener des adultes sur un chantier participatif, il y a quand même toute une symbolique autour de la plantation des arbres. Hein. Donc oui, on a toute une série de plaquettes, de documents, on a un site internet, on a une chaîne YouTube avec des témoignages. Et donc on dit en blaguant que des fois, on use plus de salive avant d'avoir planté l'arbre que d'eau après pour l'arroser.
Merci François Cyr de ce témoignage. Et pour conclure, et vous avez une redoutable tâche, non, je t'exagère, peut-être aussi de faire une synthèse si vous, de ce que vous avez entendu, de vos réactions, vous qui êtes donc membre du syndic de la Chambre des notaires du Poitou. Je ne me trompe pas.
Chauvin, je représente aujourd'hui la Chambre des notaires du Poitou, donc, qui est une chambre interdépartementale Vienne et Deux-Sèvres, hein, tout fraîchement réunie, qui a réuni les deux départements. Voilà, donc pour faire bref, hein, le notaire est confronté régulièrement dans son étude à l'occasion de rencontrer donc, tant les propriétaires fonciers, qu'ils soient agriculteurs ou non, retraités, les fermiers, les héritiers, mais aussi donc les géomètres et à l'occasion de travailler avec les SAFER et également le Conservatoire des espaces naturels. Voilà. Donc nous, dans notre profession, on travaille effectivement avec tous ces interlocuteurs. Et compte tenu de notre maillage territorial, hein, donc les notaires sont présents dans beaucoup de communes rurales, effectivement, les notaires ont à connaître de toutes ces mutations de foncier, de ces mutations qu'elles soient à titre onéreux, à titre gratuit en matière de donation, de transmission, succession, et des baux ruraux, alors baux ruraux de 9 ans, bail rural à long terme, et d'autres conventions qu'on peut être amené à nous demander. Voilà. Donc, pour faire relativement bref, je voulais vous montrer que les notaires s'attachent particulièrement à cette thématique du territoire, puisque chaque année, les notaires ont un congrès national dans lequel ils sont invités à participer. Et cette année, au mois de mai, le thème... Hein, c'était demain le territoire. Voilà. Donc le principe de ces congrès, c'est qu'il y a des notaires, des groupes de notaires qui travaillent pendant 2 ans pour faire des propositions sur le thème qui va être traité, pour ressortir un certain nombre de propositions à proposer à nos élus, et il en ressort également un précis. Alors précis, c'est pas le terme. Voilà. Et cette année, il était justement sur le thème des territoires. Et je voulais vous montrer donc sur le site les propositions qui avaient été faites et les propositions qui avaient été validées par mes confrères pour être portées au plus haut. Voilà. Alors, je vais regarder si je peux les avoir ici. Voilà, donc il y a une des sous-catégories qui était demain l'agriculture, donc je pense qu'on est tout à fait dans le thème d'aujourd'hui. Voilà, proposition numéro 1, évolution de la définition de l'activité agricole. Proposition numéro 2,
création d'un groupement foncier agricole dédié à la protection du territoire rural, puisque vous l'avez un petit peu abordé tout à l'heure en parlant du GFA familial, pourquoi pas étendre le GFA hors cadre familial, élargissement des bénéficiaires de la subrogation dans l'exercice du droit de préemption du fermier. Donc là, on parlait tout à l'heure du statut du fermage, donc on parle d'une évolution aussi du statut du fermage. Libéralisation encadrée de la cessibilité des baux soumis au statut du fermage. Donc vous savez que les baux cessibles, maintenant, il y a une certaine rigidité au niveau du bail rural qui n'était pas cessible. Aujourd'hui, le bail rural, dans certains cas, s'il a été prévu comme ça dès le départ, il peut être cessible. Hein. Transformation des modes de régularisation de l'appropriation et de l'exploitation des terres agricoles. Voilà. Ensuite, on a demain l'énergie, donc c'était d'autres thèmes qui étaient abordés, d'autres propositions. Donc simplification du regroupement forestier. Création d'un fonds de garantie pour le démantèlement des éoliennes. Donc là, on est plus sur l'aspect énergétique. Refonte de l'usufruit forestier des bois et forêts. Création d'un contrat d'ordre public d'installation d'énergie renouvelable pour les particuliers. Alors ce sont des grands thèmes. Hein. Mise en place d'un bail forestier. Ensuite, demain, la ville, on n'est plus dans notre sujet. Voilà. Donc tout ça, c'était pour vous montrer que les notaires, au quotidien, travaillent, reçoivent leurs clients et font leurs actes quotidiens de foncier dans leur commune, mais aussi ont une vision globale, nationale et à long terme du territoire. Et cette année, ils sont particulièrement attachés à cette vision-là. Ah, pardon. D'accord. Ben, j'ai quasiment terminé, sauf si vous avez des questions. Voilà, donc je...
Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, vous présentez.
François Cyr pour Promé. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le bail environnemental?
Eh bien, on va le développer. Merci. Alors, il est où? C'était le bail forestier. C'est le bail forestier, je vous ai dit. Le bail environnemental, je vous ai dit. Transformation, création d'un fonds de garantie, refonte du fruit forestier, création d'un contrat cadre, place, gestion durable. Le bail forestier, je vous ai parlé.
Non, en fait, le bail, si je peux apporter.
Ouais, allez-y.
Je crois le bail environnemental.
Ça a émergé lors de la dernière loi d'avenir agricole, en fait. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui est dans le code rural. Par contre, c'est en application. Enfin, je pense par exemple à des structures comme Terre de Liens qui passent systématiquement des baux environnementaux avec ses fermiers. Donc, en fait, c'est un bail rural, mais avec des conditions environnementales, donc de gestion. C'est une clause environnementale dans le...
Oui, mais...
Effectivement, ce qu'on cherche à mettre dans les zones basses, justement pour la protection de la ressource en eau,
c'est que avec les financements qui sont mobilisables de l'agence de bassin, notamment Loire-Bretagne, en tout cas pour les opérations dont je m'occupe, c'est d'arriver à mobiliser des financements pour maîtriser du foncier, quand bien même il ne serait pas aux endroits stratégiques de la protection de la ressource en eau, pour avoir les monnaies d'échange avec les propriétaires qui y sont, affecter donc les fonciers qui sont sous maîtrise de l'agence de bassin ou du syndicat de chargé de la protection des périmètres de captage, pour pouvoir y installer des exploitants en y mettant des baux environnementaux, lesquels exonèrent de tout ou partie du fermage, eu égard à la mise en place de clauses environnementales qui demandent de moins d'intrants, de maintien en prairie, de culture maraîchage. C'est notamment utilisé lorsqu'on veut réimplanter du maraîchage sur des zones en bordure de cours d'eau, où on sait très bien aujourd'hui qu'un maraîcher, pour qu'il soit viable, il lui faut au moins un îlot entre 3 et 5 hectares qui puisse clôturer pour les problèmes de vol, auxquels ils puissent avoir accédé, parce que tous les jours, il y a des enlèvements de production. Et par contre, dans des zones qui sont privilégiées, bah, il faut qu'ils s'engagent à avoir une démarche respectueuse de la production, de la proximité de la ressource en eau. Voilà. Donc c'est un bail rural avec des clauses environnementales. C'est la même chose, sauf qu'il y a des obligations réciproques. Mmh. En diminution du fermage, mais en mise en œuvre de mesures environnementales pour la protection de la ressource en eau.
Merci. D'autres remarques ? Oui. Marie, tu te présentes ? C'est pour l'enregistrement.
Merci. Marie Legrand, vice-présidente de Vienne Nature. Alors, à propos du bail environnemental, vous avez dû lire dans la presse, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, qu'enfin le bras de fer entre Grand Poitiers et la SAFER était dénoué, puisque la SAFER acceptait de la vente de 6,7 hectares sur la zone de captage de Fleury à Grand Poitiers. Donc là va se poser, sur ces 6,7 hectares, la question de avec qui Grand Poitiers va contractualiser pour avoir bien sûr des pratiques agricoles qui protègent totalement le captage alimentant les habitants de Poitiers. Voilà un exemple concret qui date de ce matin.
Information. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques, oui, mais justement, j'allais justement, bien sûr, mais j'allais y venir, mais je voulais, c'est parfait. Alors, parle-en.
Non, c'était pas du tout préparé. Merci à celle qui m'a permis de. Alors, notre association Vienne Nature travaille depuis le mois de mai d'une manière relativement original. Nous sommes deux administratrices à avoir rencontré une quinzaine d'acteurs du monde agricole, une quarantaine de personnes en tout à ces 15 interviews, plus des soirées thématiques auxquelles nous sommes allés. Tout cela pour aboutir à deux soirées thématiques dont le titre est, au pluriel, « Quelles agricultures pour demain, préservant la biodiversité ?» La première table ronde, c'est le 19 octobre, ici, à 18h. Je pense qu'elle va dépasser les 20h. Là, nous aurons deux députés, M. Turquois, M. Savatier, le président de l'université, le réseau Ruralité, France Génaud, la Chambre d'agriculture, Jacques Pasquier, représentant du CESE national, des agriculteurs témoins et le président directeur de la CERJI, Emmanuel Julien. La deuxième table ronde sera plus spécifique. Elle sera le 6 novembre, toujours à 18h ici, avec comme thème formation et recherche en matière agricole. Donc nous aurons un représentant de l'INRA, M. Firmat, le réseau AgroBio, le réseau Impact, un étudiant témoin du lycée agricole de Venours et un agriculteur pratiquant l'agroécologie. Donc voilà pour ces deux tables rondes à venir. 19 octobre, 6 novembre, ouverte au public.
Et tu peux mettre les cartons d'invitation sur la table en sortant. Voilà. Bien, écoutez, merci à tous, à moins qu'il y ait d'autres informations. Sinon, merci aux intervenants, merci à vous tous. Et puis, vous avez le programme derrière, de la suite de nos tables rondes. Je ne l'ai pas en tête, mais... Notamment, on en a une en novembre sur les monnaies locales. Monnaie locale, autre forme aussi de crowdfunding, etc. Enfin, toutes ces nouvelles formes de financement. On réfléchira là-dessus aussi. Mais vous avez tout le programme. Et puis, on a les journées d'automne aussi, fin octobre. Voilà. Merci à vous.